Europe 1.
Mercredi 20 mars sur Europe 1, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une de l'actualité ce matin, des opérations anti-drogue partout, sur tout le territoire. La promesse d'Emmanuel Macron hier à Marseille, visite surprise du président de la République en pleine opération anti-stup. Bilan très mince, vous l'entendrez, et des dealers déjà de retour sur le terrain. Les dangers de la transition de genre chez les mineurs. Un rapport sénatorial propose d'interdire tout traitement médical avant 18 ans. Un projet de loi est en cours de rédaction. On parlera aussi de la crise du logement. Ne sera-t-elle bientôt qu'un mauvais souvenir ? Le marché immobilier donne quelques timides signes de reprise. Et puis, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Les athlètes russes et biélorusses interdits de participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris.
Europe 1.
Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Surprise pour les habitants de la Castellanière à Marseille. Emmanuel Macron a donc bousculé son agenda pour s'offrir un déplacement express dans la cité phocéenne. Visite du chef de l'État sur le thème de la lutte contre le narcotrafic au programme Bain de foule et échange avec les Marseillais.
J'arrive madame.
Venez.
Emmanuel Macron à la rencontre des habitants de la cité de la Castellane à Marseille. Le chef de l'État le promet, des opérations XXL place nette contre la drogue. Il y en aura sur tout le territoire. Pour quel résultat ? Hier, les dealers étaient déjà de retour. Sitôt le chef de l'État reparti, après 2 jours d'intervention, le bilan apparaît bien maigre. Quelques kilos de cannabis, moins de 500 grammes de cocaïne. Jean-Baptiste Marty.
Eh bien, au total, 98 personnes ont été interpellées un peu partout dans les Bouches-du-Rhône. 71 ont été placées en garde à vue, essentiellement des dealers. Parmi ces individus arrêtés, 4 ont été placés en centre de rétention administrative en vue d'une possible expulsion du territoire français. Au total, c'est plus de 8 kg de cannabis et 340 g de cocaïne qui ont été saisis. De la marchandise donc, mais aussi des armes. 4 ont été découvertes et confisquées lors des perquisitions. En ce qui concerne les biens de valeur, 385 000 euros en espèces ainsi que 12 voitures ont été récupérées par les enquêteurs. Une vingtaine de commerces soupçonnés de blanchir de l'argent ont enfin été contrôlés. 7 ont dû fermer leurs portes. Des opérations de police d'ampleur qui sont donc amenées à se poursuivre dans une dizaine d'autres quartiers marseillais durant les 3 prochaines semaines.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Mais où est donc passée la marchandise ? Pas de réponse à ce stade. Une certitude en revanche, le trafic est en la preuve, les murs de prison sont tout sauf étanches, même derrière les barreaux. Caïd ou petit baron de la drogue poursuivent le business. Enquête du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat.
Ils sont les premiers témoins de cette porosité depuis les villas en face des murs et miradors. Les voisins comme Eliane Gasto observent régulièrement le même manège.
Moi j'habite une rue qui est assez isolée. Les femmes des détenus mettent des choses sous leur jupe, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui rentrent par là. Maintenant les visiteurs ne sont pas fouillés, c'est interdit.
Et à la nuit tombée, certains prisonniers n'hésitent pas à passer des commandes à des complices à l'extérieur, exemple le mois dernier devant le bâtiment des femmes.
Les femmes ont crié assez fort pour que tout le quartier entende. Tu vas au bar tabac à côté, tu dis que je viens de la part d'un tel et ensuite tu viens nous l'apporter. Je sais pas ce qu'ils lui apportaient. Et en partant, le livreur a klaxonné en criant « C'est super le drive au Beaumet !»
Et dans les cellules, les téléphones portables circulent facilement, trop facilement parmi les prisonniers, regrette Cathy Forzi de FO pénitentiaire.
Comment ? Malheureusement, si on savait, on arrêterait. Il y en a beaucoup de téléphones qui ne sonnent pas au portique de détection. Il y a des brouilleurs, oui. Alors les brouilleurs, nous, ça nous empêche de travailler. Alors par contre, eux, ils y arrivent, je ne sais pas comment.
Ce qui ne manque pas d'interroger également le voisinage des Beaumettes où le réseau téléphonique est fortement impacté par la puissance de ces brouilleurs.
Le reportage de la prison des Beaumettes à Marseille du correspondant d'Europe 1 Stéphane Burgat.
Alors dans l'enquête maintenant sur le vol massif de données à France Travail, 3 personnes ont été mises en examen.
Et ces 3 suspects d'une vingtaine d'années dorment en prison depuis hier soir. Ils sont soupçonnés d'avoir pénétré les systèmes informatiques de France Travail, anciennement Pôle emploi, pour aspirer les données personnelles de 43 millions d'inscrits.
Europe 1, vous en parlez dès hier. Un rapport sénatorial tire le signal d'alarme à propos de la transition de genre chez les mineurs. Ça n'est pas sans risque.
Mais le premier d'entre eux, le regret, changer de sexe et ou d'apparence physique n'est pas anodin. Il peut parfois aggraver le mal-être au lieu de le résoudre. Raison de plus pour l'encadrer plus sévèrement avant 18 ans. Ce rapport parlementaire devrait déboucher sur une proposition de loi portée par les Républicains. Arthur Delaborde.
Interdire la chirurgie dite de réassignation sexuelle pour les mineurs et les traitements hormonaux comme les bloqueurs de puberté, c'est l'objectif de Jacqueline Eustache-Brignaud. D'après la sénatrice LR du Val-d'Oise, la transition sexuelle des jeunes pourrait devenir l'un des plus grands scandales éthiques de l'histoire de la médecine. À ses yeux, le phénomène prend de l'ampleur, encouragé par des associations, parfois même dans les établissements scolaires.
Il y a toute une partie des transactivistes qui disent qu'il faut écouter le ressenti d'un enfant, il faut peut-être prendre du temps pour aller jusqu'au bout du ressenti, parce que le ressenti peut durer une année, deux années, et puis les choses peuvent changer. Les militants trans, il y en a qui vont dans les écoles aujourd'hui parce qu'on les laisse rentrer. Eh bien non. Comme les militants islamistes n'ont pas la place dans l'école, on ne doit pas ouvrir l'école à un moindre militantisme, quel qu'il soit.
Jacqueline Eustache-Brignaud appelle donc le gouvernement à faire respecter dès que possible le principe de neutralité en milieu scolaire. Elle souhaite aussi faire examiner avant l'été une proposition de loi pour interdire purement et simplement le changement de sexe des mineurs.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Comme un début de reprise dans le secteur de l'immobilier.
Et il va peut-être rester prudent, mais le marché donne quelques petits signes de redémarrage. Selon le meilleur courtier meilleurtaux.com, la demande de crédit pour acheter un logement a rebondi ces derniers mois, plus 30% par rapport à l'automne dernier. La crise n'est pas terminée, mais les banques rouvrent un peu les vannes du crédit, Margot Fodéré.
En novembre, les taux d'intérêt frôlaient les 4,5% sur 20 ans. Aujourd'hui, ils sont repassés sous la barre des 4%. La baisse pressentie en fin d'année dernière se confirme et les acquéreurs sont de retour, constate Aurélien Denécher, co-gérant d'une structure de 30 agences immobilières en Pays de la Loire.
On a des visites qui redémarrent, des reprises de contact des acquéreurs qui sont plus régulières. Il y a quand même des nuances à apporter. On a encore un volume de vendeurs qui reste trop attaché à des prix connus sur l'après-Covid.
En clair, les prix n'ont pas beaucoup baissé et les conditions d'octroi du crédit reste strict. C'est ce que pointe du doigt le responsable de ce réseau immobilier, mais aussi le courtier en ligne Meilleur Taux. Selon sa porte-parole, Maëlle Bernier, il faut absolument desserrer ces contraintes.
Vous ne pouvez pas emprunter à plus de 35% de vos revenus nets, et ce, quels que soient vos revenus. C'est-à-dire qu'on va appliquer cette même règle des 35%, que vous gagnez 2500 par foyer ou 7 ou 8000. Donc c'est absolument aberrant.
Pour autant, les règles ne devraient pas changer. Remettre en cause ces critères n'étant rien le sujet, assurait le gouverneur de la Banque de France vendredi dernier sur Europe 1.
Margot Fodéré du service économie d'Europe 1 et l'immobilier, sujet de préoccupation majeure pour les Français. Encore une bonne nouvelle, tiens, avec cette information Europe 1, le gouvernement annonce la rénovation de 75 000 logements à loyer modéré. Tous les détails dans le journal de 7h30.
Et puis à 4 mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le Comité international olympique décide de sanctionner les athlètes russes et biélorusses.
Alors, ils pourront participer aux Jeux cet été sous la bannière neutre, mais ils seront privés de cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Pas de parade, non. Décision officialisée par le CIO hier, Martin Lange.
Oui, il n'y aura pas d'athlètes russes et bélarusses sur la scène le 26 juillet prochain. Une décision justifiée par James McLeod, le directeur de la solidarité olympique au sein du CIO.
Les athlètes sous bannière neutre ne participeront pas à la cérémonie d'ouverture, car ils disputeront les Jeux à titre individuel. Mais une opportunité leur sera offerte pour vivre l'événement.
Le CIO qui n'a pas donné plus de détails concernant la cérémonie de clôture au Stade de France le 11 août, une décision sera prise ultérieurement. Le comité olympique qui a par ailleurs adopté les conditions de participation des athlètes russes et bélarusses. Ils auront un drapeau dédié vert frappé des lettres AIN pour athlètes indépendants et neutres. Ils auront également un hymne court et sans parole qui sera joué en cas de titre olympique. Des athlètes qui devraient être peu nombreux. Pour l'instant, seuls 12 Russes et 7 Bélarusses ont franchi le cap des qualifications et ils seront au maximum 83 selon les estimations de l'instance olympique.
Martin Lange, des Jeux auxquels Karim Benzema espère participer. L'ancien attaquant madrilène se dit ouvert à une sélection avec l'équipe de France Espoir cet été.
Mais il a quel âge pour jouer chez les Espoirs?
Pour l'instant, il a 36 ans, il aura 37 ans cette année. Enfin, 37 ans au mois de décembre.
Un espoir confirmé, dirons-nous. Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito Écho.
Qui gagne quoi aujourd'hui chez les artistes musicaux? On en a une idée grâce à une enquête Spotify sur les royalties, les redevances versées aux artistes par les grandes plateformes de streaming. Nicolas Bouzou va nous détailler ça. J'ai dit royalties, oh là là, le mot anglais, alors que nous sommes en pleine semaine de la francophonie. Eh bien, on va en parler de la francophonie justement. Comment va-t-elle? Avec la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo. Elle est l'invitée actuelle d'Europe 1 Matin dans un instant.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie.
Bonjour Louise Mushikiwabo.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Ce mercredi 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Et toute la semaine, Europe 1 d'ailleurs célèbre la langue française à l'antenne. Quel avenir pour la langue française ? Est-elle encore une langue monde ? On va en parler ensemble ce matin. Louise Mushikiwabo, je vous présente. Vous êtes rwandaise, vous avez été ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Vous êtes la secrétaire générale de l'OIF depuis 2018. Peut-être pour commencer très simplement, Louise Mushikiwabo, la francophonie en 2024, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, la francophonie en 2024, c'est une organisation multilatérale à part entière. Nous sommes la deuxième organisation la plus importante après les Nations Unies en termes de nombre de membres. Nous avons 88 États et gouvernements. Certainement qu'on sera autour des 90 au prochain sommet, donc il se tiendra ici en France.
Qui seraient les deux nouveaux entrants ?
Alors, je ne peux pas le dire avant que les États se prononcent. Ouais. C'est comme ça que ça marche.
Voilà. Et 320 millions à peu près de locuteurs donc de la langue française aujourd'hui dans le monde. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins, Louise Mushikiwabo. La francophonie, est-ce qu'elle séduit encore par-delà, vous nous dites, ces deux recrutements que vous faites pour l'organisation ? Parce que regardons les choses en face. Nous avons des militaires français qui sont chassés de plusieurs pays d'Afrique, l'Algérie, le Rwanda, votre pays qui interdise l'usage du français et privilégie désormais l'anglais dans l'enseignement. Hein, je précise dans l'enseignement. Le Togo, le Gabon, donc deux pays francophones qui viennent de rallier il y a deux ans le Commonwealth britannique, le Liban, Haïti, la RDC qui sont en train de sombrer, la France qui est impuissante à les aider, etc. etc. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de la francophonie dans le monde ?
Alors, la francophonie dans le monde aujourd'hui, par rapport à la langue française qui est le ciment de tous ces États et gouvernements membres, est une langue... de paradoxe en quelque sorte, parce que en même temps le nombre de locuteurs augmente, c'est ce que le dernier rapport de notre observatoire sur l'état de la langue française dans le monde nous dit, 321 millions, plus de 700 millions en 2050. Et c'est surtout grâce à la démographie africaine, parce que plus de la moitié du continent s'exprime en français à l'international et dans l'éducation. Mais en même temps, avec cette augmentation, il y a un recul, surtout au niveau des organisations internationales, à commencer par nos voisins ici à Bruxelles, l'Union européenne, même après le départ de la Grande-Bretagne. L'anglais continue de prendre de l'ampleur.
Ah oui, c'est la langue de travail officielle.
C'est la langue de travail.
En dépit du départ des Britanniques. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Nous avons, nous, la francophonie, 19 pays de l'Union européenne qui sont les membres de notre organisation. Mais il y a une sorte de laisser-aller, si je peux l'exprimer ainsi. Moi, je rentre donc de New York, j'étais aux Nations Unies la semaine dernière.
Où le français est langue officielle.
En particulier pour discuter du multilinguisme, qui est la réalité de la francophonie aujourd'hui. Vous me demandez ce qu'est la francophonie aujourd'hui.
Parce que le français, disons-le, est une langue, pas nécessairement de premier choix, c'est une langue parmi d'autres dans les pays francophones, généralement, Louise Mushikiwabo.
Alors, à part la France, et peut-être le Québec, tous nos autres membres ont d'autres langues. Et donc nous nous inscrivons aujourd'hui en tant qu'organisation internationale dans un système où il y a la langue française à différents niveaux, langue de travail, langue officielle, langue unique, français comme deuxième ou troisième langue, avec d'autres langues. Et donc nous sommes dans un système où moi, qui suis multilingue aussi, d'ailleurs, moi, mon pays a quatre langues officielles. J'ai grandi francophone et puis après, j'ai fait mes études aux États-Unis. Je parle swahili puisque je suis de l'Afrique de l'Est. C'est ça la francophonie aujourd'hui. C'est plusieurs langues avec la langue française qui nous lie. Donc, à différents niveaux. Moi, je ne dramatiserais pas autant.
Quand vous entendez, par exemple, les Québécois dire à la France « Vous avez abandonné le français ». Est-ce qu'il vous arrive d'ailleurs, vous, en tant que présidente de l'Organisation de la Francophonie, de sermonner la France sur la question de la langue française, où l'on voit des initiatives gouvernementales prendre des labels en anglais, etc.
Alors, sermonner la France, non, je ne le ferai pas, mais je me plains de temps en temps aux autorités françaises.
Par exemple.
Juste parce que je ne suis pas pour une guerre des langues. Ça n'a pas de sens. On est dans la marche du monde et dans l'ère du temps. Mais quand même, la langue française doit pouvoir garder sa place. Donc ce recul, il faut qu'on puisse l'arrêter quelque part. Et surtout, moi, je suis une francophone décomplexée. Je n'ai pas de complexe par rapport au recul de la langue française parce que c'est la géopolitique aussi.
Oui.
C'est...
Qu'est-ce que vous pensez, Louise Mouchikiwabo, pardonnez-moi, je passe un peu sur les questions, mais de l'écriture inclusive, est-ce que c'est un sujet dont on discute dans l'enceinte de la francophonie?
Alors, nous l'OIF, nous ne sommes pas habilités... Nous ne sommes pas l'organe qui
vous n'êtes pas l'Académie française.
On n'est pas l'Académie française. On n'est pas dans les normes sur la langue française. Et pour nous qui sommes beaucoup sur la priorité égalité femmes-hommes, nous avons choisi d'autres combats. Ce n'est pas le fait de m'appeler la secrétaire générale ou le secrétaire général qui est important.
Ah bah justement, Madame la secrétaire générale, l'OIF, parmi ses missions, il y a la langue bien sûr, mais vous le dites, il y a aussi, alors j'ai regardé sur le site internet, la promotion de la paix, des droits de l'homme, de la démocratie, le climat, la coopération économique, l'éducation, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'accès à la santé, c'est les Nations Unies, la francophonie, là.
Alors, vous avez raison. Moi, j'ai été élue en 2018, deux ans avant, un an et demi avant que la francophonie n'ait 50 ans. Et à l'époque, les chefs d'État recherchaient une personne pour penser la francophonie après 50 ans, moderniser en quelque sorte.
Et je rappelle que vous êtes une diplomate de formation.
Je suis une diplomate d'expérience.
Oui,
je suis dans ce domaine depuis plusieurs années. Et donc moi, mon premier constat à l'OIF, c'était que c'était une organisation qui se disperse. Je connaissais l'OIF puisque j'étais ministre des Affaires étrangères, je suivais...
Et ça n'est plus le
Mais
cas,
de l'intérieur, la première chose que j'ai voulu faire, et les chefs d'État ont approuvé ces démarches, c'était de limiter et de rechercher l'impact.
Et vous l'avez trouvé ou pas ?
Nous sommes bien avancés sur cette transformation. Nous sommes maintenant en train de consolider cette nouvelle francophonie qui s'est totalement réformée, y compris dans le format de ces sommets. Vous verrez à Villers-Cotterêts,
à la fin de l'année,
en octobre, c'est un sommet qui n'est plus la grand-messe, 3-4 jours de circulation de chefs d'État, qui est beaucoup plus resserré, beaucoup plus business, comme on dit en mauvais français. Et donc, c'est vrai que notre organisation est maintenant... tourner vers l'avenir de plusieurs manières, y compris dans ses activités.
Merci beaucoup Louise Mouchikiwabo d'être venue au micro d'Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Et ce sommet en France à Villers-Cotterêts en octobre, on aura l'occasion évidemment d'en reparler sur Europe 1. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Il est 7h21 sur Europe 1, l'édito éco.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à
Nicolas.
Tous.
On va parler de musique avec vous aujourd'hui Nicolas. La plateforme de streaming Spotify vient de publier un rapport sur les royalties, les redevances donc versées aux artistes. Alors il y a une bonne surprise dans ce rapport, il nous montre en effet qu'il n'y a plus que des... Il n'y a pas seulement que des superstars qui gagnent très bien leur vie grâce à leur travail musical.
Ouais, c'est une bonne nouvelle pour la création artistique parce que jusqu'à maintenant, le streaming n'apportait des revenus significatifs qu'aux artistes qui vendaient le plus de disques. C'était le phénomène du winner takes it all, c'est-à-dire le gagnant, les superstars prennent l'ensemble du marché. On avait quelques têtes d'affiche qui généraient chacune plus de 1 million de dollars de revenus par an, mais enfin, les autres n'avaient rien. Alors la bonne nouvelle, c'est que oui, les choses évoluent, puisqu'en 2023, d'après le rapport de Spotify, 1250 artistes ont généré généré plus de 1 million de dollars de revenus chacun. Alors, c'est trois fois plus qu'en 2017. Mais 12 000 artistes ont généré plus de 100 000 dollars et 66 000 plus de 10 000 dollars. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des dizaines de milliers d'artistes dans le monde qui peuvent désormais vivre de leur musique. C'est au fond la reconstitution progressive d'une classe moyenne d'artistes. Alors, le phénomène est lent, mais enfin, il a le mérite d'exister. On revient à une situation classique hein, où il y a bien entendu des superstars ultra riches, mais en dehors de ces mégastars, eh bien, des artistes peuvent vivre de leur art.
Alors, quels sont les artistes qui génèrent le plus de revenus ?
Alors, Spotify ne communique pas les revenus précis, mais ce sont ceux qui sont les plus écoutés. Donc, on sait de qui il s'agit. Alors, la première, ça ne va pas vous surprendre, c'est Taylor Swift, évidemment, hein, avec 26 milliards de streams, 26 milliards d'écoutes en 2023. Hein, ce sont des chiffres qui donnent le vertige. En numéro 2, on a le rappeur portoricain Bad Bunny. Et en 3, The Weeknd, hein, l'artiste canadien qu'on adore. Alors, là, on n'est pas dans la classe moyenne. Hein. Ce sont des gigastars mondiales qui ont d'ailleurs tout en commun de venir du continent américain.
Alors, à propos de Taylor Swift, il se trouve qu'elle défie vraiment les lois de l'industrie musicale. Hein.
Ah, on n'a jamais vu ça, elle bat tous les records. Son dernier album, Midnight, a été écouté 775 millions de fois en une seule semaine, 185 millions de fois en une seule journée sur Spotify. Ça ne s'est pas fait au détriment des ventes de vinyles et de CD. Elle en a vendu 7 millions aux États-Unis. Sa tournée mondiale a déjà généré un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars. C'est la tournée la plus rémunératrice de l'histoire de la musique, à tel point que la Banque Centrale Américaine a montré que quand elle passe dans une ville, ça génère un phénomène inflationniste passager. Hein. Elle fait monter notamment les prix des restaurants et des hôtels. Alors, on se réjouit de la réapparition progressive d'une classe moyenne de la musique, mais enfin, on se réjouit aussi du succès incroyable et inédit de cette personne étonnante qu'est Taylor Swift.
Voilà, il est amoureux de Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas. Signature Europe 1, 7h24.
Europe 1.
Tous les soirs sur Europe 1, juste après le journal de 22h, vous prenez la parole à l'antenne.
Oui, et vous pouvez parler de tout en toute confiance, sans jugement, avec l'écoute bienveillante d'Olivier Delacroix du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche, Valérie Darmon. Alors, si vous aussi, vous souhaitez témoigner, partager votre expérience, rendez-vous dans la libre antenne d'Europe 1 tous les jours, 7 jours sur 7 après 22h. Vous vous inscrivez dès maintenant 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé.
Bon réveil à vous sur Europe 1, le journal permanent. Christophe Lamarre.
Bruxelles va plafonner les importations de volailles, d'avoine et de sucre ukrainien. Accord conclu cette nuit entre les 27 et le Parlement européen sur les produits agricoles ukrainiens exemptés de droits de douane. Emmanuel Macron réunit les chefs de parti et de groupes parlementaires de la majorité présidentielle ce soir à l'Elysée. Réunion consacrée à l'épineuse question des finances publiques au moment où la Cour des comptes s'inquiète du dérapage des déficits. Inquiétude partagée par Éric Ciotti dans Les Échos ce matin. Le président Les Républicains estime que la France emprunte le même chemin que la Grèce. Il accuse Emmanuel Macron d'avoir ajouté 900 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Et en ce 20 mars, on plonge dans les archives d'Europe 1 avec vous, Laure d'Autriche, pour mettre en valeur quelques belles interviews sur le thème du bonheur.
Oui, des recettes du bonheur sont distillées dans les magazines, dans les livres, sur Internet. En 1967, l'icône Brigitte Bardot répond sur Europe 1 à la question « Qu'est-ce qui vous rend heureuse ?»
Oh ben, les joies, pour moi, ce sont des petites choses. Je sais pas, moi. De voir que tout est blanc dans la campagne et qu'il y a un petit soleil d'hiver qui se lève, c'est une joie pour moi.
Tu collectionnes les petits bonheurs, quoi?
Non, je collectionne rien du tout. Mais quand ça arrive, c'est bien. En tout cas, je sais les voir. Être heureux, en fin de compte, c'est pas difficile. On a la vie qu'on mérite, en fin de compte.
Et vous savez à quel âge on est le plus heureux? Apparemment à 33 ans, selon une étude britannique publiée en 2012.
On a une vraie accélération de sa vie. Explosion professionnelle à 33 ans.
Moi, je vais avoir 36 ans là bientôt et je n'ai pas l'impression d'avoir vécu le pic de mon bonheur. Je l'attends.
On est bien 50. Avant, on est jeune, d'accord, mais on connaît pas la vie.
À 20 ans, on a l'insouciance, on découvre tout. Après, on prend conscience, après, on apprécie. Donc, plus on prend de l'âge, mieux c'est.
Et comment en profiter? Comme l'écrivait joliment Marcel Pagnol, telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. En 1990, sur Europe 1, le réalisateur Claude Lelouch raconte lui qu'il ne réussit pas à savourer les moments de bonheur.
Je suis presque inversement proportionnel à mon bonheur. À chaque fois que je suis confronté à un moment très très heureux, je suis finalement très angoissé parce que je sais qu'il va y avoir une merde derrière. Quelque part, les emmerdes, c'est le microscope du bonheur, quoi.
Et pour finir, je vous propose d'écouter le chanteur Hugo Frey en 2010.
Ma conception du bonheur, c'est de se dire qu'il faut aimer ce que l'on a. Et puis, avoir des projets. Le projet, ça peut être de quitter ce que l'on a parce qu'on ne l'aime pas. Avoir de l'avenir devant soi. Si on n'a pas d'avenir, on ne peut pas être heureux.
Merci, Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et toute cette semaine, c'est un très beau cadeau que vous pouvez gagner. Europe 1 vous envoie en croisière avec CroisiEurope, la compagnie française leader de la croisière fluviale en Europe. Alors vous allez naviguer pendant 5 jours au fil de la Garonne, ça c'est un beau programme, hein, et au fil de la Dordogne aussi, à la découverte des trésors vinicoles du sud-ouest, Blaye, Libourne, Saint-Émilion, tout est compris à bord. La cuisine raffinée, les boissons, les animations, plus les visites guidées. Europe 1 s'occupe de tout, vous n'avez plus qu'à aller choisir vos dates de croisière sur croisiEurope.com.
Et la question du jour, la voici. Quel célèbre réalisateur angoissé par le bonheur a-t-on entendu à l'instant dans la chronique de Laure d'Autriche ? Était-ce Claude Lelouch ou bien Jean-Luc Godard ?
Pour tenter votre chance et peut-être partir en croisière au fil de la Garonne, vous envoyez croisière par SMS au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Vous répondez à la question du jour et le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance. Je vous rappelle qu'à 8h10, Adrien Quatennens sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le député LFI du Nord en plein retour médiatique après une année de mise à l'écart du fait de sa condamnation en justice pour violence conjugale. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Rebondissement dans l'affaire du petit Émile disparu il y a 9 mois dans les Alpes de Haute-Provence. Le profil de son grand-père interroge les enquêteurs. Il est le dernier à avoir vu l'enfant vivant. Explication dans un instant. Beaucoup de moyens, peu de résultats pour l'opération Place Net XXL à Marseille contre le trafic de drogue. Et cette question ce matin, mais où sont donc passés les trafiquants ? Élément de réponse à suivre. Comment relancer l'immobilier en France ? Le gouvernement mise sur les logements à loyer modéré. C'est une information Europe 1. 75 000 logements de ce type vont être construits ou rénovés dans les 3 prochaines années. Et puis nous parlerons du développement des panneaux solaires made in France. Leur développement est-il compromis ? En effet, les Chinois cassent les prix et les fabricants français sont dans de grandes difficultés. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Retrouvera-t-on un jour Émile ? C'est une affaire qui nous intrigue depuis des mois. Ce petit garçon blond de 2 ans disparu le 8 juillet dernier dans le Haut-Vernay. Plus de 9 mois après, les enquêteurs ne relâchent pas leurs efforts et on apprend que le passé de son grand-père, l'un des derniers à avoir vu l'enfant vivant, questionne. Il est entendu dans une affaire de violence au sein d'une communauté religieuse pour enfants. Les faits remontent aux années 90, Frédéric Michel.
Les narcotrafiquants marseillais ne sont plus à Marseille. Les policiers
médiatiquement, mais pas pour les enquêteurs. Cette information, ils l'ont quasiment depuis le début de l'affaire, car évidemment, ils ont passé au crible des différents fichiers toutes les personnes liées de près ou de loin à Émile au moment de sa mystérieuse disparition. Et c'est la règle. Ils s'intéressent aussi à la famille. Ce serait une faute de ne pas le faire. Et même si ces révélations étonnent, sèment le trouble, elles ne préjugent en rien de la responsabilité du grand-père d'Émile. Entendu donc en 2018 par la police judiciaire de Lille pour des violences volontaires sur des enfants et ados. Il était alors éducateur dans une communauté religieuse du nord de la France, des catholiques traditionnalistes. À l'époque, il a 26 ans et se fait appeler Père Philippe. Il est décrit comme strict, autoritaire, sévère. Plusieurs confrères ont dévoilé des extraits de procès-verbaux où il aurait reconnu avoir parfois donné des gifles, des coups de pied, mais pas souvent, des coups de poing au niveau des épaules. Placé sous le statut de témoin assisté, il n'a jamais été jugé ou condamné, mais avec la disparition de son petit-fils, ce passé ressurgit aujourd'hui. D'anciens élèves ont été auditionnés par les enquêteurs.
Les précisions de Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Direction Marseille, à présent, où les habitants des quartiers nord n'auront eu que quelques heures de répit. À peine Emmanuel Macron reparti, le trafic de drogue a repris ses droits. Une nouvelle descente de police dans la soirée a permis 3 nouvelles interpellations, selon le journal La Provence.
Et cette visite surprise d'Emmanuel Macron hier était pourtant l'occasion de faire un premier bilan de l'opération Place Net XXL qui est en cours.
900 policiers déployés dans 5 cités de Marseille pour un bilan tout relatif, 100 interpellations et la saisie notamment de 4 armes et 8 kilos de cannabis. William Molinier, le pari est donc loin d'être gagné car beaucoup de dealers organisent leur réseau sans être présents à Marseille.
Les narcotrafiquants marseillais ne sont plus à Marseille. Les policiers anti-stup le savent parfaitement. Ils dirigent leur point de deal depuis l'étranger. Ils ont commencé, il y a 2 ans, à orienter leurs équipes locales vers la conquête de nouveaux territoires à Nîmes, Montpellier, Avignon ou Aix-en-Provence. Les têtes de réseau se sont disséminées partout en France. Un dealer phocéen a par exemple été interpellé la semaine dernière à Montgermont, près de Rennes. Leur savoir-faire s'exporte dans les régions les plus reculées. Avec leur étiquette de marseillais, ils foutent la trouille à tout le monde, y compris aux dealers locaux, observe un enquêteur. À Nîmes, les Yoda et la DZ Mafia, les deux grands clans ennemis de Marseille, ont racheté plusieurs points de deal et poursuivent leur vendetta par procuration sur le bitume nîmois. Cette opération PlaceNet XXL, et c'est une des limites de son efficacité, risque d'accélérer cette tendance à l'éparpillement dans l'arrière-pays, sauf à ce que les dealers reviennent chez eux dans les quartiers nord, une fois que les policiers et les gendarmes auront baissé la garde.
William Molinier. Emmanuel Macron présidera aujourd'hui à 11h30 la cérémonie d'hommage national à Philippe de Gaulle, le fils du général, mort la semaine dernière à 102 ans. Un hommage à son parcours militaire et politique exemplaire qui se tiendra dans la cour d'honneur des Invalides. L'état des finances publiques catastrophique, comme le dit la Cour des comptes, il en sera question ce soir à l'Élysée au cours d'un dîner prévu entre le président et les chefs de parti de la majorité.
Cette question à présent, comment relancer le logement en France ?
Le gouvernement va annoncer cet après-midi la construction et la rénovation de 75 000 logements à loyer modéré. 1 milliard d'euros débloqués vendredi dernier pour les 10 000 premiers chantiers. Christophe Bordet, bonjour.
Bonjour à tous.
Et ce n'est pas fini, c'est une information Europe 1. Vous nous révélez ce matin les mesures qui vont permettre le développement de ce type d'habitat.
Oui, alors cet impact entre l'État et les partenaires financeurs comme France Assurance ou la Caisse des dépôts qui va être signé cet après-midi. Objectif, accentuer la construction et la rénovation de ces appartements situé en zone tendue, c'est-à-dire là où les classes moyennes, trop riches pour bénéficier d'un logement social mais pas assez pour louer sur le marché traditionnel, ont bien du mal à trouver un toit. 153 nouvelles villes réparties sur tout le territoire vont pouvoir en bénéficier. Les bailleurs sociaux vont également être autorisés à proposer jusqu'à 20% de loyers modérés contre 10% aujourd'hui. La mesure va pouvoir s'appliquer aux résidences seniors et étudiantes. Le public concerné, un salarié seul par exemple, gagnant moins de 30 000 euros bruts par an. Volonté affichée, lier le logement au travail et à la réindustrialisation en construisant non loin des futures usines ou réacteurs nucléaires nouvelle génération comme à Penly dans la Manche par exemple.
Les explications de Christophe Bordet pour Europe 1. Et puisque l'on parle de logement, vous êtes de plus en plus nombreux à installer des panneaux solaires sur votre toit pour faire des économies d'énergie, essentiellement des panneaux chinois, produits de moins en moins chers. Et face à cette concurrence agressive, les entreprises françaises du photovoltaïque sont à la peine. Exemple près de Nantes où le fabricant Sistovi pourrait mettre la clé sous la porte après 15 ans d'existence. Le reportage de Charles Guyard pour Europe 1.
Jusqu'à l'été dernier, tout allait pour le mieux dans cette usine de panneaux solaires boostée notamment par la transition énergétique.
Et puis, les Chinois, en quelques semaines, ont divisé leur prix par deux parce qu'ils sont subventionnés par le gouvernement chinois.
Paul Toulouse, directeur général de Sistovi.
Et donc, ils arrivent avec des camions entiers de panneaux sur le territoire européen à des prix cassés qui rendent la compétition déloyale. Parce que le dumping exercé par les industriels chinois fait que ça emportait beaucoup des décisions des donneurs d'ordre.
Résultat, l'entreprise a vu ses commandes divisées par 5 et qu'elles viennent des particuliers comme des collectivités locales.
Ça nous arrive tous les jours, de répondre à des appels d'offres. J'ai un exemple où il fallait couvrir un gymnase. On a fait une offre avec des panneaux faits par des gens qui connaissent les toitures françaises. Malgré tous les services qu'on apportait ailleurs, en maintenant des emplois qui ont de la valeur, on se retrouve écarté de l'appel d'offres parce que le prix va à une offre portée par des industriels chinois.
Surtaxer les importations extra-européennes ou privilégier la production nationale dans les marchés publics permettrait entre autres de stopper l'hégémonie chinoise dans l'Hexagone où aujourd'hui 90% des installations photovoltaïques sont fabriquées dans l'empire du milieu.
La correspondance de Charles Guyard pour Europe 1.
Merci beaucoup Nina Pavant, c'était votre journal. Dans un instant, l'édito international sur Europe 1. Pourquoi les djihadistes en veulent-ils autant à la Suède? 2 djihadistes viennent d'être arrêtés en Allemagne, ils préparaient un attentat. On va voir ça avec Vincent Hervouette dans un instant.
Bon réveil avec Europe 1, il est 7h39.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour débuter votre journée. Il est 7h42, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique, on va parler avec Vincent Trémollet de Villers de l'hommage que la nation va rendre tout à l'heure à l'amiral Philippe de Gaulle. Ce sera le 25e hommage du genre rendu par Emmanuel Macron depuis 2017. Le Club Culture d'Europe 1 matin, nous sommes mercredi, jour des sorties cinéma. Bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Et qu'est-ce qu'on va voir cette semaine alors ?
Eh bien, on va voir Bis Repetita et on va voir aussi le nouveau film de Stéphane Brisé avec Guillaume Canet.
Allez, à tout de suite. Le livre du jour. Non, je vous oublie pas, Nicolas Carreau. Ne vous inquiétez pas.
Je vous emmène en Martinique avec le nouveau roman de Victor Laszlo.
On voit ça dans un instant, juste après. L'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
La Suède est en alerte, Vincent. Deux djihadistes ont été arrêtés en Allemagne alors qu'ils préparaient un attentat à Stockholm.
Oui, des réfugiés afghans vivant en Thuringe. Ils avaient planifié une tuerie aveugle. La mission leur avait été confiée par l'État islamique au Khorasan, la filiale afghane de Daesh. C'était en août. Donc, 7 mois à préparer le bain de sang. Ils ont échoué à se procurer des armes et ils ont eu le temps de se faire repérer. Leur plan, c'était de mitrailler des policiers et des passants près du Parlement suédois. Une bonne cible, symbolique, et un mobile clair, c'est là qu'a été brûlé un Coran en public l'été dernier. Et le Parlement est le cœur d'un royaume si profondément attaché à la liberté d'expression qu'il refuse d'interdire ses autodafés.
Oui, c'est d'ailleurs devenu une sorte de spécialité scandinave.
Le rituel a été inauguré par un excité qui a la double nationalité danoise et suédoise et qui prétendait ainsi tester le respect des musulmans pour la démocratie occidentale et vérifier qu'ils savent gérer les provocations. Alors, on a été éclairé quand les émeutes ont éclaté et que la police a arrêté une demi-douzaine de furieux décidés à venger cette profanation. On connaissait les allumettes suédoises, on a désormais le pyromane. Fin juin, nouvelle auto-da-fé devant la Grande Mosquée. Fin juillet, devant le Parlement, et en septembre dans la ville de Malmö, qui est le théâtre de règlements de comptes permanents entre bandes ethniques, c'est Backnord, tout au nord de l'Europe, au point que le directeur de la police suédoise avoue qu'il est débordé, que c'est trop tard, qu'il faudra 10 ans d'efforts à l'État pour venir à bout des gangs immigrés.
Alors depuis ces autodafés, la Suède est sur le qui-vive.
Il n'y a pas que Daesh qui conspire. Al-Qaïda a incité les croyants à exercer leur devoir de vengeance contre ce petit pays méprisable. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, a appelé à punir les criminels. L'organisation de la conférence islamique a tenu une AG exceptionnelle pour dénoncer le laxisme suédois et réclamer à l'ONU un envoyé spécial contre l'islamophobie. La Turquie s'est indignée, elle a tiré un prétexte supplémentaire de l'affaire pour bloquer pendant des mois l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Et en Irak, eh bien, l'ambassade a été simplement incendiée et l'ambassadrice renvoyée chez elle. C'est donc la double peine pour la Suède, avec les menaces à l'extérieur et des réfugiés chauffés à blanc à l'intérieur. Le niveau de risque terroriste a été relevé de 3, qui correspond à menace élevée, à 4 menaces fortes sur une échelle de 1 à 5. Et il y a 2 semaines encore, le SAPO, le service de sécurité suédois, a pris d'assaut un bâtiment dans la banlieue de Stockholm et arrêté 4 islamistes qui préparaient des attentats.
Alors l'été dernier, Vincent, les provocateurs étaient 2 réfugiés irakiens.
Oui, ils réclamaient l'interdiction du Coran, ce qui prouve qu'ils se croient encore en Orient. En Suède, on ne censure pas, on n'imagine pas de brûler un livre au nom de la liberté d'expression, pas plus qu'on interdirait une télé d'infos continue au nom du pluralisme. Mais bon, si on résume, 2 réfugiés afghans ont voulu faire payer aux Suédois le sacrilège de 2 réfugiés irakiens. Cherchez l'erreur. Réponse en vrac, la politique d'immigration qui a été la plus généreuse des pays de l'OCDE, le dévoiement du droit d'asile, l'échec de l'intégration. C'est du moins ce que disent les politiciens suédois, et pas seulement la droite ultra arrivée en tête des dernières élections. Cette semaine, dans l'hebdo L'Expressen, une députée du Parti libéral au pouvoir, qui s'appelle là-bas le Parti modéré de rassemblement, demande pardon aux Suédois d'avoir jadis vanté l'ouverture et l'accueil des réfugiés. C'est ça, le nouveau modèle suédois.
Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci Vincent, 7h46.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Le livre du jour, Nicolas Carreau. Nous prenons la direction de la Martinique avec vous ce matin.
Avec Victor Laszlo, vous savez, qui chantait « Pleurer les rivières » au Canoë Rose dans les années 80, une douzaine d'albums. Mais depuis une quinzaine d'années, elle écrit des romans et le dernier s'appelle « Ce qui est pour toi, la rivière ».
Parce que Victor est une femme. Hein.
Oui, Madame Victor Laszlo, bien sûr. Chez Robert Laffont, encore une rivière, mais rien à voir, tout est parti d'un tableau, un dessin inachevé, plutôt d'un peintre poussiniste, Nicolas-André Monciot. Bref, sur ce dessin, on voit François Danton en 1793 qui reçoit les députés de Saint-Domingue bras ouverts et leur annonce que l'abolition de l'esclavage y a été décrétée. À sa gauche est assise une vieille femme noire qui a l'air d'avoir 100 ans.
Et c'est l'histoire de cette femme que raconte ce livre, hein.
Absolument. C'est Olvidia, l'héroïne et la narratrice du roman Martinique, 1752, la voici. Enfin, jusqu'à ses 7 ans, son nom c'était juste Fille. C'est comme ça que l'appelait sa mère, qui ne l'aimait pas pour une raison particulière que je ne vous raconte pas. C'est le maître qui l'a nommée Olvidia. Alors elle est esclave, mais au moins elle échappe aux champs, à la canne à sucre et aux rats. Elle travaille dans la maison, c'est dur, mais c'est moins dur. Elle travaille pour Madame de Lalongue, une aristocrate autrichienne sèche qui se comporte très bizarrement avec Olvidia, qui n'arrête pas de lui dire qu'elle lui ressemble. Oh, comme tu lui ressembles. Mais à qui? Ça, on le saura pas tout de suite. Et son mari, le maître, un noble rentier, un aventurier qui a tout misé sur l'achat des bois tranchés, le domaine.
On va donc suivre l'itinéraire d'Olvidia.
Voilà. Au début, ça va à peu près. Et puis, ça se corse, ça devient même carrément l'horreur pour elle. Oui, mais elle ne restera pas en Martinique, elle va partir et découvrir l'Europe dans l'effervescence du XVIIIe siècle et la Révolution française et l'éventualité de la liberté. C'est un roman d'anticipation qui vous emporte, qui ne vous laisse pas de pause. On la suit jusqu'à sa mort. Olvidia, écoutez ce qu'elle dit à la fin, ça résume bien le roman. « Je suis née plusieurs fois. Aujourd'hui, je peux mourir. »
Voilà, ce qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas, le titre du dernier ouvrage de Madame Victor Laszlo. Merci Nicolas Carreau. Le cinéma, Laurie Choleva, Louise Bourgoin, pour commencer, nous fait perdre notre latin cette semaine.
Oui, est-ce qu'il vous reste des notions de latin, Dimitri?
Un petit peu, oui.
Eh bien, c'est tout le...
Non, j'en ai pas fait longtemps.
C'est bon. Tout le sujet du film, Bis Repetita d'Émilie Noblet. Elle joue une prof de latin désabusée. Alors elle propose à ses élèves de ne pas leur faire cours, de leur mettre 19 sur 20 pour avoir la paix en classe.
Ah bah bravo,
le problème,
la pédagogie.
C'est
ouais.
Ça, c'est qu'un jour l'établissement est sélectionné pour une compétition mondiale des meilleurs latinistes et elle est contrainte d'accompagner sa classe de cancre.
On a un deal, je vous rappelle. Les gars, on a déjà fait cours de latin?
Non, jamais.
C'était le deal de ne pas faire cours.
Si on la ferme, on a 19 de moyenne.
Mais si vous préférez, on peut toujours faire des interros de grammaire.
Oh ben non, surtout pas. Hein. Pourquoi pas apprendre à l'école? Ce rôle de prof malhonnête qui encourage ses élèves à tricher, qui ne croit plus au système scolaire, c'était le personnage qu'attendait Louise Bourgoin pour faire son grand retour à la comédie. Et c'est très réussi. Vous ajoutez une petite dimension comédie romantique avec un autre personnage, celui du neveu de la principale, qui est joué par Xavier Lacaille, qui est chargé d'accompagner toute cette classe à Naples. Et lui, pour le coup, c'est un puriste du latin.
Ça me perturbe,
vraiment, le
votre
film
scénario,
est
là,
très
même,
réussi. Hein. C'est vrai,
oui.
Faut aller le découvrir.
Oui, oui, non, mais
je sais pas. Il y a pour que tu m'aimes encore de Céline Dion en latin. Ça vaut le détour.
Ah, pourquoi pas. Et puis Guillaume Canet aussi en acteur connu pour Stéphane Brisé, le réalisateur Stéphane Brisé.
Guillaume Canet qui est un acteur connu et qui joue le rôle d'un acteur de renom en pleine dépression qui part faire une cure dans un hôtel un peu perdu au milieu de nulle part. Et durant son séjour, il va être contacté par une femme qu'il a aimée et qu'il a quittée 15 ans plus tôt.
J'étais pas sûre de te contacter.
Non, je suis très heureux.
Je parle toujours aussi mal le français.
Non mais zéro progrès, c'est quand même fou. Ton mari, il sait qu'on a été ensemble?
C'est qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé en vrac.
Un film doux, mélancolique, mais aussi très drôle, sur les regrets, sur la célébrité, sur les réseaux sociaux, puisqu'on suit ce personnage perdu dans l'hôtel qui déambule en claquette, qui fait des selfies à longueur de journée. On est bercé aussi par la musique de Vincent Delerme et puis on rit grâce au dialogue ciselé coécrit par Marie Drucker, qui a énormément de talent. Et vous avez entendu la voix de cette actrice italienne, c'est Alba Rohrwacher. Vraiment, le duo fonctionne à merveille.
Merci Laurie Choleva. Donc, redonne les titres des deux films de la semaine.
Oui, Bis Repetita et Hors Saison.
Et ben voilà, merci. On vous retrouve ce week-end. Clap sur Europe 1.
Bien sûr, l'émission cinéma d'Europe 1, c'est tous les samedis 19h, 20h. Et tout le cinéma français se bat pour aller chez Laurie.
Oh là là, c'est
samedi
gentil,
soir, Laurie sera avec François Civil, s'il vous plaît.
Ah ouais.
Pour le film Pas de vagues. François Civil en prof de lettres, c'est à voir.
Encore
merci
une fois, un professeur.
Ben oui, merci beaucoup les amis. À demain pour un prochain Club Culture. 7h51, le journal permanent sur Europe 1. Nina Pavan.
Après la lutte contre le trafic de drogue hier, Emmanuel Macron évoquera aujourd'hui l'état catastrophique des finances publiques, selon les mots de la Cour des comptes. Dîner ce soir à l'Élysée avec les chefs de parti de la majorité. C'est une information Europe 1. Le gouvernement va annoncer cet après-midi la rénovation et la construction de 75 000 logements à loyer modéré d'ici 3 ans, avec un objectif, lier le logement à l'emploi en construisant au maximum près de sites industriels. 3 personnes placées en détention provisoire soupçonnées d'être les cyberpirates arnaques qui ont attaqué France Travail. En février dernier, les noms, numéros de téléphone et numéros de sécu de 43 millions de Français ont été volés. Le gouvernement appuie sur le frein au sujet des zones à faible émission. Elles ne seront obligatoires qu'à Paris et Lyon au 1er janvier 2025. Les autres métropoles pourront continuer à autoriser les véhicules jusqu'aux critères R3.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa et bonjour à tous.
Bonjour Vincent.
Aujourd'hui, la Nation rend hommage, Vincent, à l'amiral Philippe de Gaulle dans la cour des Invalides, en présence du président de la République. Un nouveau moment de liturgie républicaine qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres. En effet, ces hommages sont devenus une marque de la présidence Macron.
Oui, c'est le 25e hommage national depuis qu'Emmanuel Macron est président. C'est beaucoup plus qu'aucun autre de ses prédécesseurs. Il suffit d'énoncer les noms pour voir les visages s'effacer un à un de la grande fresque de notre histoire, qu'elle soit populaire ou militaire. Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, et Léon Gauthier, qui avait participé au débarquement, mais aussi Michel Bouquet et Charles Aznavour, Simone Veil et Valéry Giscard d'Estaing, Robert Badinter et maintenant l'amiral de Gaulle. La France d'après, celle du multiculturalisme imposé, de l'individualisme triomphant, de l'américanisation des usages, s'incline devant des soldats, des comédiens, des politiques qui incarnaient la France d'avant. C'est la clope du jeune Chirac, la moto de Johnny, l'esprit libre de Jean d'Ormesson, les cascades de Jean-Paul Belmondo. Il suffit de voir un extrait de film, une photo pour mesurer le temps qui a passé, mais surtout la transformation dans les moindres détails de notre société. Le paradoxe, c'est que celui qui leur rend un hommage très sincère est né sur une proposition politique fondée sur le mépris du passé et la foi dans le progrès. C'était, souvenez-vous, la Startup Nation et il n'y a pas de culture française. Tout cela se termine dans le lieu classique par excellence, la Cour des Invalides, qui est devenue l'un des lieux du quinquennat. Qu'on le veuille ou non, le passé nous rattrape, le passé nous possède.
Mais l'objectif premier, Vincent, c'est de construire des moments d'unité, hein ?
Oui, c'est ce qui est affiché. Toute société a besoin de rites. Mais plus profondément, on peut y voir une inquiétude presque existentielle. La passion des hommages et des commémorations s'était déjà amplifiée avec François Hollande, mais elle a pris des proportions inouïes avec Emmanuel Macron. On a l'impression qu'il ne se passe pas une semaine sans que résonnent les trompettes de l'histoire, avec le président en maître de cérémonie. Ces commémorations, ces anniversaires, ces hommages, ces inaugurations, pris un par un, ont tous un sens. Mais ils peuvent donner par l'effet d'ensemble l'impression d'une gigantesque muséification de la France, comme si notre époque trop peu sûre d'elle-même jouait des coudes pour essayer de s'insérer tant bien que mal dans la geste des combats passés, comme si l'on s'enivrait de mémoire pour oublier notre sortie de l'histoire.
Alors ces moments ne sont pas non plus dénués d'arrière-pensée politique, on l'a vu par exemple avec la panthéonisation d'André Manouchian. Qu'est-ce que je raconte de Missak Manouchian, pardonnez-moi.
Manouchian. Toute commémoration est une transformation de l'événement passé au service des besoins du présent. C'est le grand historien Pierre Nora qui nous a prévenus. L'étude de l'histoire est très précieuse pour éclairer les esprits et inspirer les politiques. Mais quand elle est maniée grossièrement et sans précision, elle peut devenir une science aveuglante ou un instrument idéologique. Pierre Nora dit aussi « l'histoire rassemble et la mémoire divise ». On le voit avec les références à la Seconde Guerre mondiale qui deviennent des réflexes de tribune et s'éloignent de plus en plus de ce que fut cette tragédie inouïe. Ultime paradoxe, le président de la République reprend par ses hommages le fil du roman national, fil qui a été volontairement rompu par l'école. On a fabriqué l'amnésie collective et on voudrait quand même célébrer le passé glorieux. Et c'est pour tout cela que ces hommages provoquent un sentiment partagé. On voudrait y voir la chaîne de la transmission qui relie les générations les unes aux autres, mais on craint parfois d'assister au dernier adieu à un monde que nous avons délibérément choisi d'enterrer, au requiem d'une civilisation chantée par ceux qui ont renoncé à la perpétuer.
L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro ce matin consacrée aux élections européennes et la poussée des droites souverainistes. Selon un sondage Ipsos réalisé dans 18 pays de l'Union, les deux groupes de droite souverainistes au Parlement européen pourraient totaliser plus de 150 sièges, dites-vous, sur 751. Le 9 juin prochain, ce serait donc du jamais vu. Merci beaucoup Vincent.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 7h56. Nous sommes le mercredi 20 mars et c'est le printemps aujourd'hui, Dimitri.
Absolument. Et nous
nous fêtons ce jour Saint Herbert, qui vécut au 7e siècle en ermite sur une petite île au milieu d'un lac en Angleterre. Bon réveil avec Europe 1. Dans la prochaine heure, ne manquez pas 8h30, Gaspard Proust. Ce sera juste après la grande interview Europe 1 CNews face à Sonia Mabrouk ce matin. Adrien Quatennens, le député La France Insoumise du Nord. Le journal dans un instant. Nous sommes le mercredi 20 mars. Bonne journée, il est 8h.
Europe 1 matin. 7h-9h. Dimitri Pavlenko.
Les dealers déjà de retour à la Castellane à Marseille après la visite surprise d'Emmanuel Macron hier. Premier bilan plutôt mitigé de l'opération PlaceNet XXL. Reportage dans un instant. Mais pourquoi le président s'est-il précipité dans la cité phocéenne hier? Lutte contre la drogue, guerre en Ukraine, finances publiques. Le chef de l'État partout, tout le temps. Ou comment être au centre du jeu en pleine campagne des européennes? Décryptage politique dans un instant. Nous parlerons aussi de la chute d'un géant français. Atos s'enfonce dans la crise. Le leader des services informatique sans repreneur à ce stade joue sa survie dans les prochaines heures. Nous évoquerons aussi la journée du bonheur, c'est aujourd'hui, et paraît-il que danser c'est bon pour le moral, exemple dans un cours de tango. 8h10, votre invité juste après ce journal, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité ce sera le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Au programme, vous l'avez dit, les retombées de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Nous parlerons de l'explosion de la dette et de la gauche éparpillée façon puzzle aux européennes.
Mais d'abord le journal de 8h, Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Décidément, il ne recule devant rien. À peine Emmanuel Macron avait-il tourné les talons hier que les trafics de drogue et les trafiquants faisaient déjà sur les réseaux sociaux des publicités pour la réouverture de leur point de deal à la Castellane, à Marseille.
Et oui, c'était faire fi de la détermination des centaines de policiers et gendarmes mobilisés pour cette opération PlaceNet XXL, dopée par la visite surprise du chef de l'État.
Oui, résultat, 3 nouvelles interpellations cette nuit, une centaine au total en 2 jours. Les saisies sont encore timides, à peine 300 grammes de cocaïne et 8 kilos de cannabis. Mais Emmanuel Macron a promis d'éradiquer les trafics. Et pour les habitants, il y a urgence, comme l'a constaté le correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat.
Même en présence des policiers, les langues se délient très difficilement pour raconter un quotidien angoissant.
Ce qui se passe ici, c'est grave. Tous les jours, il y a des cris à la police, ça casse tout. On ne peut même pas rentrer tranquillement. Moi, à 17h, il faut que je sois chez moi, sinon j'ai peur.
Les mères de famille, à l'image d'Astrid, s'inquiètent pour leurs enfants.
Oui, je suis maman de garçons, ils sont jeunes. Bon, c'est encore en espérance, hein. On est en train d'espérer que, voilà, évidemment, on ne se dirige pas vers la délinquance, on évite tout. Ben, on a peur pour eux, comme pour nous, comme pour tout l'avenir, hein. En fait, tout se dégrade. Demain, il marche dans la rue. Moi, je lui dis, habite-toi autrement, ne fais pas ça, parce qu'on ne sait jamais.
Et beaucoup sont choqués par l'ampleur des points de deal sous leurs fenêtres. Un business que Jean-Daniel voit exploser depuis 10 ans.
Avant, il n'y avait pas tant de vendeurs que ça. Parce que là, il y a un... Après, au bout de là-bas, il y a un autre. C'est pas la même société. Il y a moins 7 ou 8 qui tournent. Quand on voit le nombre de billets, le billet de 50 en fin de matinée, c'est plus que vous, c'est plus que moi qui suis à la retraite et tout et tout et tout. Il y a des billets, des billets, des billets.
Et c'est pourquoi les promesses d'Emmanuel Macron d'un quotidien meilleur prennent pour ses habitants des airs de fable. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Emmanuel Macron qui a déclaré hier que ce type de dispositif de grande envergure contre le narcotrafic serait déployé dans toutes les grandes villes de France.
Oui, des annonces fortes, une visite surprise à Marseille qui dame le pion à ses ministres, le chef de l'État, président de l'hypercommunication ces jours-ci, Jacques Serret.
De l'aveu même d'un conseiller de l'exécutif, le chef de l'État veut prendre la lumière, quitte à éclipser ses ministres, une manière de s'auto-convaincre qu'il reste bien le pouvoir d'attraction. Il a fait beaucoup d'international avec la guerre en Ukraine ces derniers jours. Et il y a le Conseil européen, jeudi et vendredi à Bruxelles, décrypte un stratège macroniste. Aller à Marseille, c'est une manière pour lui de montrer qu'il va sur le terrain, que c'est lui le chef du quotidien des Français. Et la destination ne doit rien au hasard. Marseille, c'est sa ville de cœur, rappelle un proche du président. Comme s'il s'agissait aussi de sauver les apparences d'un programme mal embarqué. Celui qu'il a lui-même annoncé en septembre 2021, Marseille en grand. Il y a 2 semaines, la fuite d'un document provisoire de la Cour des comptes révélait les faiblesses de ce plan censé combler les retards en matière de logement, d'éducation, de transport public et de sécurité. Mais ce sont surtout les propos chocs de magistrats marseillais appelant à un plan Marshall contre le narco-banditisme qui semble avoir réveillé l'exécutif. À 3 mois des européennes, hors de question de montrer un quelconque signe d'impuissance, alors que le RN fait toujours la course en tête dans les sondages.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Ce matin, une enquête Ipsos menée dans 18 pays de l'UE montre que la droite radicale et eurosceptique pourrait gagner 30 sièges lors des prochaines élections européennes. Ce serait alors la première première fois que les deux groupes d'extrême droite du Parlement européen réuniraient plus d'un député sur cinq.
Et les chefs des différents partis de la majorité sont invités ce soir à l'Élysée pour un point politique sur la délicate question des finances publiques.
Mais délicate parce que la France est dans le rouge. La dette devrait se chiffrer à 109,7% du PIB en 2024. Trajectoire peu ambitieuse et fragile, estime la Cour des comptes. Dans une interview au journal Les Échos ce matin, Éric Ciotti, le patron des Républicains, juge que la dégradation des comptes est la première menace qui pèse sur l'avenir du pays. Nous empruntons le même chemin que la Grèce, a-t-il déclaré.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05.
C'était une revendication des agriculteurs français. Les importations agricoles ukrainiennes vont être plafonnées. Les 27 et le Parlement européen sont tombés d'accord ce matin.
Œufs, volailles, sucre, mais également avoine, maïs et miel en provenance d'Ukraine et exemptés de droits de douane vont désormais faire l'objet d'un mécanisme de sauvegarde. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs européens qui accusent effectivement l'afflux de produits ukrainiens de plomber les prix locaux et de constituer une concurrence déloyale.
Dans l'actualité économique aussi, le gouvernement promet de ne pas laisser tomber Atos, le géant français de l'informatique qui s'enfonce dans la crise.
C'est un enjeu de souveraineté industrielle et surtout de protection de nos données. La branche data et cybersécurité de l'entreprise devait être rachetée par un autre français, Airbus. Il a finalement jeté l'éponge. Conséquence, l'action Atos a plongé en bourse hier. De quoi inquiéter davantage salariés et actionnaires de ce fleuron tricolore, Aurélien Fleureau.
Cybersécurité, intelligence artificielle, supercalculateur. Imaginez ces secteurs stratégiques repris par Airbus avec quelque chose de rassurant et faisait figure de bouée de sauvetage pour Atos. Mais le groupe qui emploie 100 000 salariés s'enfonce dans la crise. De quoi susciter l'inquiétude de Karine Dran, coordinatrice de la CFE-CGC, premier syndicat d'Atos.
L'annonce du retrait d'Airbus a été un choc parce que c'est la deuxième fois en très peu de temps qu'un plan de rachat tombe à l'eau. Le problème aujourd'hui est un problème de dette. La première chose qu'on espère, c'est que tous ces délires qui amènent à un démantèlement du groupe s'interrompent.
Pour certains, le zèle de Bercy pour boucler le deal avec le champion aéronautique aurait été contre-productif. Le ministère de l'économie a précisé hier soir qu'il va construire dans les prochaines semaines une solution nationale de protection des activités stratégiques. Il ne faudra pas perdre de temps. Atos sera au cœur du bon déroulement des JO de Paris en hébergeant les données des participants et en assurant la cybersécurité de l'événement.
Aurélien Fleureau.
Une nouvelle autobiographie du pape François en librairie aujourd'hui.
Oui, il raconte tout le pape François, de ses origines italiennes à son élection il y a plus de 10 ans, Antonino Gallofaro. Qu'est-ce qu'il y a comme moment fort dans cet ouvrage ?
Il y en a beaucoup. Le pape se souvient par exemple de son enseignante Esther, une vraie communiste, athée, avec ses propres idées, mais elle n'a jamais attaqué la foi, raconte François. Elle me donnait des publications à lire, dont celle du Parti communiste. Dans les quelques 300 pages du livre se trouvent aussi les premiers amours du pontife. Et ce dérapage pendant le séminaire, comme le décrit François lui-même. J'étais au mariage d'un de mes oncles et j'ai été ébloui par une fille. Pendant une semaine, j'ai eu son image en tête et j'ai eu du mal à prier. Et puis la vie durant la dictature argentine, dans les années 70, le pape raconte avoir caché et protégé une vingtaine de séminaristes pendant 2 ans, mais il n'a pas réussi à aider Esther, sa professeure communiste, qui a été enlevée, torturée et jeté dans l'avion. Il fait aussi des réflexions personnelles que l'avortement est un homicide, mais imagine aussi une église mère qui accueille tout le monde, y compris les personnes homosexuelles et transsexuelles. Milan, Antonino Gallofaro, Europe 1.
Et oui, il est où le bonheur en cette journée internationale du bonheur qui tombe comme par hasard le premier jour du printemps?
Un beau jour de soleil et vous pourrez danser, ça permet de lutter contre la dépression, les médecins le confirment. Et surtout, quand on danse du tango, les balles de l'association Fréquence Tango à Paris en sont la preuve, Camille Moreau.
Vas-y, danse. Dans la Milonga, salle de tango au mur rouge, sous les lumières tamisées, les corps des couples enlacés défilent.
Une étreinte, une marche. Un homme accueillir une femme dans ses bras.
La tête posée sur l'épaule de son partenaire, Elisa enchaîne les ronds de jambes. Une fois par semaine, le tango lui offre un instant de bonheur, de répit.
Le tango, c'est l'échappatoire nécessaire. C'est un shoot d'endorphine. Dans mon quotidien personnel, moi qui suis maman solo, prof, j'ai besoin du tango pour le côté social, pour la musique, pour l'endroit où ça me transporte. Le tango, c'est comme si ça me faisait voyager.
Cette danse venue d'Amérique latine, Amalia la pratique depuis près de 20 ans, toujours avec autant de plaisir.
Il y a eu un moment où j'ai fait un grand arrêt et j'ai senti un peu ce petit vide. Et quand j'ai repris, j'ai ressenti le bien-être que ça me fait finalement.
Après quelques heures de tango, Amalia repart plus apaisée qu'à son arrivée. Elle n'a qu'une seule hâte, revenir la semaine prochaine.
Camille Moreau.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Adrien Quatennens est face à Sonia Mabrouk.
Bienvenue et bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence et votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Ce matin, justement, dans le journal Les Échos, c'est le patron des Républicains, Éric Ciotti, qui tire la sonnette d'alarme au sujet de la dette. Nous empruntons, dit-il, le même chemin que celui de la Grèce. Et il ajoute, Adrien Quatennens, que cette situation dramatique des finances publiques constitue la première menace sur l'avenir de notre pays. Il a raison.
Non, je crois que cela est fait pour faire peur. D'ailleurs, on entend, vous auriez pu citer également Bruno Le Maire qui nous fait son numéro de perle à rigueur. Je crois que tout ça n'est pas sérieux. D'abord, première chose, avant de parler de la dette en tant que telle, qui l'a creusé le plus? C'est ça qui est important. Bruno Le Maire qui nous parle sans cesse de la dette et qui a l'air d'en avoir peur, et le ministre de l'économie et des finances qui, sur ces 15 dernières années, l'a creusé le plus, la dette, de plus de 810 milliards. Alors, il pourrait nous dire, oui, mais il y a eu la période du Covid. C'est à peu près 200 milliards. Si on les retire de ce qu'il a creusé, c'est de toute façon quand même lui qui détient le record. Donc voir ces personnages qui ont en quelque sorte favorisé des politiques de réduction des dépenses publiques d'un côté, venir nous dire qu'aujourd'hui il y a un problème de dette alors qu'en réalité ils ont beaucoup creusé ce déficit et cette dette, voilà, c'est assez...
Pompier pyromane, diriez-vous, de Bruno Le Maire?
Oui, mais ce qui est surtout insupportable, c'est que voyez-vous, quand Bruno Le Maire, par exemple, ou d'autres responsables de droite nous parlent de la dette et du déficit, ils disent, voilà, la France est accro à la dépense publique, et en quelque sorte, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faudrait donc la réduire. Et bien évidemment, quand ils parlent de réduire la dépense, ils parlent de réduire la protection sociale. Alors, on ne sait pas dans quoi
ils vont
encore couper.
Éric Ciotti dit plafonnement de la somme des allocations perçues. Et plus largement, cette musique selon laquelle, Adrien Quatennens, on ne peut pas vivre de la solidarité nationale de façon permanente. Stop à la gratuité aussi.
Je suis bien d'accord avec certains points. Alors d'abord, la gratuité, pardon, mais il faudrait peut-être rappeler à Bruno Le Maire qu'il n'y a rien de gratuit dans ce pays. Hein, les prestations sociales, elles sont le fruit de cotisations, c'est-à-dire que vous payez pour une sorte d'assurance et la redistribution se fait par l'impôt. En revanche, il y a une dépense publique qui coûte un pognon de dingue, qui n'est jamais évoquée.
Laquelle ?
Eh bien, plutôt que de dire « la France est accro à la dépense publique », ce que Bruno Le Maire devrait dire, c'est « les riches sont accros aux cadeaux fiscaux qui ont été faits de manière massive depuis le début du quinquennat, des deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Il y a 100 milliards de fraudes et d'évasion fiscale. On ne voit pas que Bruno Le Maire ait l'intention de mettre le paquet pour l'en empêcher. Et puis aussi, en France, on a un système qui est tout à fait particulier, c'est que les grands groupes, les grandes entreprises, vous avez vu dernièrement les chiffres records, une nouvelle fois du CAC 40, 153 milliards de bénéfices, 67 milliards de dividendes. Ces entreprises sont biberonnées, accros, c'est le cas de le dire, aux aides publiques. Donc en réalité, plutôt que de parler sans cesse de la protection sociale...
Ce sont vos pistes d'économie, parce qu'hier, le ministre de l'économie vous a interpellé à l'Assemblée nationale, il vous a dit, allez-y, banco, donnez-moi une première piste d'économie.
Eh bien, je lui en donne plusieurs. D'abord, monsieur Bruno Le Maire, rétablissez l'impôt de solidarité sur la fortune.
Ah, vous avez plus de 70%.
Ben oui, mais sauf que, Sonia Mabrouk, regardons l'efficacité de la mesure. Parce que, a priori, ça n'a pas été fait pour faire plaisir aux riches. En tout cas, c'est pas ce qui nous a été dit. Ça a été fait pour favoriser l'investissement et le retour à l'emploi. Est-ce que ça a été fait? Non. Vous avez même des établissements et des organismes gouvernementaux, pas insoumis, qui ont étudié l'efficacité de la politique fiscale d'Emmanuel Macron, qui a consisté à redistribuer le plus à ceux qui avaient déjà beaucoup pour dire ça va ruisseler, vous vous en souvenez. Eh bien, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que ça n'a eu aucune efficacité du point de vue économique. La seule chose que ça a provoqué, c'est qu'il y a une part toujours plus importante de richesse qui se concentre entre quelques mains. Sonia Mabrouk, aujourd'hui, en France, vous avez 5 milliardaires qui, compte tenu des cadeaux fiscaux qui ont été faits par Emmanuel Macron et M. Bruno Le Maire, perd la rigueur qui nous dit qu'il y a trop de dépenses publiques, 5 milliardaires aujourd'hui se partagent autant, accrochez votre ceinture, que 27 millions de Français.
Je m'accroche et je vous rappelle aussi, comme ça vous accrochez à la vôtre, M. Quatennens, que pour certains d'entre eux, ils ont suscité et généré des milliers d'emplois. Ça, vous le passez sous silence?
Non, mais c'est une évidence, mais vous savez... Quand Bruno Le Maire nous parle de la gratuité et dit qu'il faut arrêter la gratuité pour tout, le capitalisme tout entier repose sur l'idée de gratuité. Vous savez laquelle ? La gratuité du travail. On ne vous paye pas, comme salarié, à hauteur de ce que vous produisez. C'est d'ailleurs la différence entre ce que vous produisez et ce qu'on vous paye qui s'appelle le profit. Donc tout le système dont Bruno Le Maire est le premier ambassadeur repose précisément sur l'idée de gratuité. Voilà, je pense que ces gens-là sont de piètres économistes et que eux qui ont creusé le déficit et la dette pour faire des cadeaux toujours eux-mêmes, non pas à donner des leçons aux Français, dont vous savez très bien qu'aujourd'hui ils souffrent beaucoup. La principale préoccupation des Français, on le voit, c'est la question du coût de la vie, c'est la question du prix de l'énergie, c'est la question des loyers. Il y a une situation de quart-monde qui s'étend en France, pendant que de plus en plus, vous avez une concentration de richesses entre quelques mains, du fait de leurs politiques qui sont inefficaces.
Vous avez cité le pouvoir d'achat, la pauvreté, la précarité, on peut ajouter aussi l'insécurité, les trafics. À ce sujet, à Marseille, lors d'une visite surprise hier, le président de la République a promis, Adrien Quatennens, une lutte implacable face au narcotrafic, refusant, dit-il, tout discours défaitiste et affirmant que l'objectif était de rendre, je cite sa phrase, « la vie des dealers impossible ». Alors c'est un vœu pieux ou alors vous y voyez une vraie volonté politique?
Bon, hier à Marseille, j'ai l'impression qu'on a plus assisté, nous tous, à un tournage d'un grand film de cinéma qu'à une véritable opération de justice et de police. On avait l'impression de voir un mauvais numéro d'une émission chez une chaîne concurrente, en quête d'action, voilà. Je pense, Sonia Mabrouk, que les Français en ont assez des opérations de communication d'Emmanuel Macron. Ils aimeraient peut-être le voir moins, mais que leur vie change plus. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, et notamment ce qu'on a vu hier à Marseille, enfin pardon, mais une grande opération PlaceNet XXL, et à la fin, on arrive sur quoi? Je crois que c'est 8 kilos de cannabis qui ont été saisis et 300 grammes de cocaïne.
Plus c'est de 80 interpellations.
C'est absolument ridicule.
Et des trafiquants qui font la publicité sur leur retour déjà sur les points de deal. Est-ce qu'il faut, par exemple, je vais vous laisser terminer, par exemple, il y a un point qui a été évoqué hier par Emmanuel Macron, c'est la sanction, en tous les cas, pointer la responsabilité des parents délinquants mineurs.
Bon, d'abord, première chose, ces gens sont au pouvoir depuis quelque chose comme 7 ans maintenant. Monsieur Darmanin, c'est 5 ans de guerre à la drogue. Pour quel résultat? La consommation continue d'exploser. Nous sommes un des pays, la France, qui a le modèle le plus répressif et qui a le plus de consommateurs. Et on le voit, ça ne cesse d'augmenter. Je crois que, en réalité, la politique du chiffre qui est menée dans la police... des opérations de court terme, comme celles qu'on a vues hier, sont à rebours de ce qu'il conviendrait de faire. Comme le dit régulièrement mon collègue Bernalicis, qui à l'Assemblée s'occupe de ces questions, il faudrait au contraire mettre le paquet dans le long terme, dans la police judiciaire, dont vous savez d'ailleurs que la réforme de M. Darmanin l'a mise en grande difficulté, dans le fait d'avoir du renseignement sur place et des enquêtes de long terme. Je crois, Sonia Mabrouk, que les opérations de démantèlement de trafic et de police les plus efficaces sont celles que l'on voit et que l'on entend le moins.
On peut être d'accord
avec
vous,
comme hier,
Adrien Quatennens, mais quand vous dites le système le plus répressif, ce n'est pas ce que disent les policiers quand ils voient, alors le lendemain j'exagère, mais quelques jours après, les mêmes trafiquants, les mêmes dealers revenir sur les points de deal.
Vous avez raison. Alors, fixons-nous deux objectifs comme responsables politiques vis-à-vis de la drogue. D'abord, il y a une question sanitaire, il faut le rappeler. J'attire votre attention sur le fait que dans de nombreux pays d'Europe, la question de la drogue est sous la compétence du ministère de la Santé et pas de l'Intérieur. C'est-à-dire que les consommatrices, les consommateurs de drogue, là je ne parle pas des trafiquants, je parle de ceux qui consomment, doivent à mon avis être plutôt appréhendés sur la question sanitaire, comme des personnes malades qu'il faut aider, accompagner, plutôt que comme des criminels.
On peut faire les deux.
Alors, bien évidemment, on peut faire les deux, et sur un certain nombre de trafics, on doit le faire. En revanche, je crois, et nous le disons depuis un certain temps, que sur la question du cannabis, qui surcharge la police, qui surcharge nos tribunaux...
On connaît votre position.
Bah oui, mais il faut la dire. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de
vous
pays maintenant qui viennent...
Vous êtes favorable à une dépénalisation?
Ah non, alors pas une... Alors, pour toutes les drogues, on pense que les usagers doivent être, en effet, dépénalisés. Il ne faut pas pénaliser l'usage, pas criminaliser l'usage. Il faut l'entreprendre sous la question de santé. Pour le cannabis, en revanche... Comme beaucoup de pays, regardez le Portugal, est-ce que ça a donné en termes de baisse de la consommation?
Sonia
Mabrouk, il y a les Allemands,
mais on parle de la
le 1er avril, les Allemands vont légaliser.
Combien de morts? Je vous ai posé une question sur la responsabilité des parents, vous n'avez pas répondu.
Alors, il faut tarir le trafic, vous en êtes d'accord, c'est ça le but, dans
est-ce
ces
qu'il
quartiers.
Faut, sanctionner les parents de délinquants mineurs.
D'abord, vous posez la question de savoir s'il faut sanctionner les parents pour savoir si c'est efficace pour tarir le trafic. On est d'accord, le but c'est de tarir le trafic. Je crois que pour tarir le trafic, si en effet, par exemple, le cannabis est légalisé et contrôlé, eh bien je pense que c'est une des solutions pour tarir le trafic. Et puis après, il faut se poser aussi la question. PlaceNet XXL pour la drogue, moi ce que je vois surtout dans ces quartiers, c'est que ça a été, sous l'effet des politiques menées par Emmanuel Macron, PlaceNet aux services publics qui n'existent plus, aux bureaux de poste qui ont fermé, aux écoles qui ferment, aux hôpitaux, aux commissariats
parfois.
Vous savez que par exemple, on a été ceux qui ont proposé qu'on remette en état les commissariats de France, qu'on remette en état délabrés. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire.
Encore faut-il qu'ils ne soient pas attaqués, parce que sur place, Emmanuel Macron a rappelé à Adrien Quatennens que l'ordre républicain doit régner après l'attaque du commissariat de la Courneuve à tir de mortier d'artifice 4 jours, on le rappelle, après la mort d'un jeune à scooter dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Est-ce que vous condamnez l'attaque de ce commissariat?
Vous savez, l'ordre républicain, Sonia Mabrouk, c'est pas simplement la police et la matraque. L'ordre républicain, c'est, je le disais à l'instant, le fait que les services publics existent.
Vous parlez de qui, la matraque?
Non, mais c'est Souvent, vous êtes d'accord avec moi, souvent quand dans la bouche des responsables politiques on parle d'ordre républicain, à quoi on pense? Vous savez très bien qu'en général...
À maintenir l'ordre, à ne pas avoir des commissariats attaqués
moi,
par des tirs de mortier.
Pour moi, par exemple, les services publics qui ferment, la population qu'on laisse dans une situation de dénuement, c'est du désordre républicain, c'est pas de l'ordre républicain.
Nous sommes d'accord, mais ma question c'était, est-ce que vous condamnez l'attaque d'un commissariat?
Ce que je condamne d'abord et avant tout, parce que l'attaque du commissariat a l'air de plus vous susciter votre émotion que la mort du jeune Wanis.
Voilà. Je condamne, on ne peut pas avoir de l'émotion pour la mort, mais ma question est, est-ce que vous condamnez l'attaque d'un commissariat?
D'abord, ce que je veux dire, c'est ma solidarité avec la famille de ce jeune homme qui est décédé, un de plus, après un refus d'obtempérer. Juste vous dire que ça fait des années que nous disons à la France Insoumise qu'il y a un problème avec l'organisation de la police. Notre discours n'est pas un discours anti-police dans ce genre de situation. C'est un discours anti-meurtre.
Monsieur Thomas Porte a dénoncé le racisme systémique dans la police. Ben ce n'est pas un discours anti-police.
On ne peut pas nier, et y compris vous avez des policiers qui disent qu'il y a un problème systémique dans la police.
Ah, c'est pas ce que dit Monsieur Porte. Là, j'entends une nuance de votre part.
Non, il n'y a pas de nuance. On a une difficulté. Mais attendez, ça fait. Attendez, je vais être précis.
Je connais la langue.
Ce qui vous intéresse, Sénéma Brooke, c'est pas la polémique. Ce qui intéresse, c'est quelle solution politique.
Non, mais j'aimerais bien savoir si vous reprenez les mêmes propos.
Vous voulez pas que je réponde à votre question précédente d'abord sur ce qu'on fait pour le rapport entre la police et la population?
J'ai des questions simples. Est-ce que vous condamnez l'attaque? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a du racisme?
Nous ne pouvons jamais être d'accord pour que l'on s'attaque à des biens ou des personnes. C'est que ça va de soi. En revanche, permettez-moi de dire que le fait que quelques pétards sur un commissariat, si grave que ce soit.
Pétards, monsieur Quatennens.
Mais attendez, Sénéma Brooke, un jeune homme est mort. Indignez-vous.
Mais indignez-vous aussi
je ne suis pas d'accord avec le fait que quiconque, et y compris et spécialement
enquête,
des policiers.
Sur la mort du jeune homme.
Oui, il y a une enquête. Par contre, il y a 9 mois, c'était.
Je sais que vous respectez la présomption d'innocence.
Oui, bien sûr. Mais il y a 9 mois, c'était Naël, Sonia Mabrouk. Et puis surtout, regardez encore une fois les politiques publiques menées en termes de relations entre la police et les citoyennes, les citoyens. Sonia Mabrouk, en Allemagne, c'est pas tous les jours que je prends l'exemple allemand, comme j'ai fait plusieurs fois ce matin sur votre plateau. En Allemagne, il y a eu un mort pour refus d'obtempérer en 10 ans. En France, on a quasiment un mort par mois depuis 1 an et demi. Donc quand nous disons, y compris que du point de vue législatif, il y a des choses à améliorer, par exemple cette loi Cazeneuve qu'il faut abroger sur le refus d'obtempérer, ce que ça permet, c'est aussi pour améliorer la relation entre la police et la population. De même qu'hier, avec la visite de M. Macron à Marseille, on a revu venir sur le débat public la question de la police de proximité. Nous y sommes hyper favorables. Une police qui, justement, connaîtrait les habitants, peut tisser un lien avec.
J'entends. Mais j'entends que vous dites ce matin pas la même chose que M. Thomas Porte.
C'est-à-dire?
Vous dites certains policiers, et d'ailleurs dans toute institution, il peut y avoir du racisme, il faut le dénoncer, mais lui dit qu'il y a un racisme systémique, c'est-à-dire systémique,
pardon,
ça veut dire que c'est généralisé.
Non, systémique, ça ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes.
Si, ça veut dire qu'il y a un système
donc, qui produit et reproduit.
Donc, du racisme.
Écoutez, il y a beaucoup d'écrits, il y a des gens qui ont compris, fait des études, qui ont participé à la police et qui ont été dans les effectifs, et qui écrivent, et c'est assez documenté. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre tous les policiers dans le même panier, c'est de dire qu'on a, oui, un problème à mon avis, systémique dans la police, qu'il faut régler par une autre organisation.
Adrien Quatennens, toujours à Marseille hier, Emmanuel Macron évoquait beaucoup, beaucoup de sujets, y compris internationaux, notamment sur l'Ukraine. Et quand vous parlez de la paix, de négociations sur ce sujet, la majorité vous répond, comme hier d'ailleurs, à ce micro, Valérie Ayé, tête de liste Renaissance, elle vous répond « Esprit minutois, renoncement, soumission, reddition ». Que répondez-vous à cela?
Bon, d'abord, il faudrait que ces gens-là prennent quelques cours d'histoire sur... les différences, y compris entre les conditions dans lesquelles la guerre de 14-18, celle de 39-45 se sont menées. Mais au-delà de ça, qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche et qu'ils disent quelle est leur proposition. C'est quoi? C'est d'aller faire la guerre, d'aller jusqu'à Moscou et d'engager la France dans une guerre nucléaire avec une autre puissance nucléaire. Tout cela n'est pas raisonnable. Tout le monde sait que la solution à ce conflit sera une solution diplomatique tôt ou tard. Et que la France doit pouvoir intervenir en ce sens. Il existe des organismes internationaux qui permettent ce genre de discussion. Eh bien, par exemple, l'OSCE. Eh bien, voilà ce qu'il faudrait faire. C'est véritablement prendre l'initiative diplomatique. On ne voit pas aujourd'hui que l'escalade guerrière va pouvoir nous mener où que ce soit.
Il a été question également de Gaza. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a eu une habitante qui a interpellé le président et qui lui a reproché un deux poids, deux mesures. Autrement dit, d'être très ferme vis-à-vis de Poutine et puis d'être, j'allais dire, plus, en tout cas, estime-t-elle, plus laxiste vis-à-vis de Netanyahou. Est-ce que vous reprenez à votre compte cette comparaison?
C'est le moins qu'on puisse dire.
Les mêmes qui
revendiquent le droit international pour les Ukrainiens à juste raison et des sanctions pour Vladimir Poutine à juste raison sont très timorés quand il s'agit de défendre les Palestiniens et de réclamer des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou, évidemment. Et depuis que la Cour de justice internationale... Alors, j'entends, il y a le langage des petits polémistes de plateau télé, mais il y a aussi le langage du droit international. Depuis que la Cour de justice internationale a statué sur le fait qu'il y avait à Gaza un risque génocidaire, cette décision n'est pas juste un effet d'annonce. Elle oblige les signataires de la Convention contre le génocide. Donc la France doit agir. Emmanuel Macron était relativement absent du débat hier lorsqu'il a été interpellé très justement par cette femme qu'on a vue très triste. Qu'attend Emmanuel Macron pour poser un acte fort, la reconnaissance de l'État de Palestine? Qu'attend Emmanuel Macron pour imposer des sanctions à Israël? Par exemple, vous savez, Sénat Brouk, que la plupart des armes qui se retournent contre les civils à Gaza sont y compris des armes françaises. Il faut un embargo sur les armes. Ce qui est en train de se produire à Gaza...
L'embargo sur les armes?
Oui, il ne faut plus livrer d'armes, il ne faut plus que la France livre d'armes à Israël parce que ces armes se retournent contre les civils. En 4 mois, 31 700 civils tués, plus de 13 000 enfants, Sénat Mabrouk, 13 000 enfants. C'est plus en 4 mois qu'en 4 ans de conflit à travers le monde entier. Voilà la réalité aujourd'hui. Et il serait bon qu'on vienne s'en rappeler... Parce que pour le moment, ce qu'on a surtout vu parmi les politiques et les responsables publics en France, c'est un soutien inconditionnel à une puissance qui aujourd'hui, clairement, est en train de pratiquer une forme de génocide.
Beaucoup condamnent ce qui se passe et la situation à Gaza, tout en réaffirmant aussi et en rappelant ce qui s'est passé le 7 octobre et en dénonçant clairement les attaques terroristes
Mais
de Hamas.
C'est une évidence que ce qui s'est produit le 7 octobre, et nous avons d'ailleurs été les premiers à condamner
les
actions
de Hamas.
Mais pas les
plus clairs, reconnaissons-le.
Je ne crois pas. Non mais attendez, si vous avez quelque chose à redire de précis, Jean-Luc Mélenchon a été le premier
Hamas
responsable
pas
politique.
Comme une organisation terroriste, vous connaissez le débat qui dure.
Alors,
depuis,
son mode opératoire est terroriste, c'est indéniable. Et nous l'avons toujours dit, nous l'avons dénoncé. En revanche, en effet, du point de vue du droit international, pas de la langue qui fait plaisir sur les plateaux télé, le Hamas en tant que tel n'est pas reconnu comme une organisation terroriste. Vos collègues de l'AFP, par exemple, que vous n'allez pas suspecter de je ne sais quoi, ne qualifient pas le Hamas d'organisation terroriste.
Non mais c'est
terroriste.
Un débat, on peut non pas suspecter, mais interroger quand un média ou un politique ne qualifie pas une organisation terroriste de terroriste.
Alors attendez, attendez, on va faire un peu de droit, juste un instant du coup, si vous le voulez bien, regardez. Vous connaissez peut-être pas ces résolutions de l'ONU. Résolution des Nations Unies numéro 2708. Elle reconnaît la légitimité de la lutte qui mène les peuples coloniaux et les peuples sous domination étrangère pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance par tous les moyens nécessaires dont ils disposent. C'est l'ONU, Sénat Brouk. Et elle dit également, réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour se libérer de la domination coloniale et étrangère.
Y compris par une organisation terroriste.
Sénat Brouk. Je parle la langue du droit international. Est-ce que je suis en train de vous lire? Ça pèse peut-être moins pour vous que CNews et Radio J, mais ça s'appelle les Nations Unies. Mmh. D'accord? Mmh. Et les Nations Unies reconnaissent cette légitimité. Pour autant, évidemment, M. Mabrouk, évidemment, le mode opératoire du Hamas le 7 octobre, lui, tombe sous le coup de la loi, et ce sont des actes qui ne sont pas acceptables, qui sont des crimes de guerre, qui sont des actes terroristes, et ça, nous n'avons pas de difficulté
à le dire. Merci Adrien Quatennens, on est arrivé au bout.
On n'a pas du tout le temps de parler des élections européennes.
Mais Manon Brice sera notre invité.
Permettez-moi juste de dire un seul mot, alors, pour conclure.
Allez-y.
Si vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022 ou pour la NUPES en juin 2022, refaites-le le 9 juin prochain en votant pour la liste conduite par Manon Aubry.
Merci d'avoir été notre invité. Je vous dis à bientôt, Adrien Quatennens.
À bientôt, merci.
Merci Sonia Mabrouk, merci Adrien Quatennens. Gaspard Proust arrive dans un instant sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Merci Anissa Dadi. Il est l'heure de vos signatures. Europe 1, 8h34, d'ici 9h. Vous avez rendez-vous avec votre zapping politique dans un quart d'heure, signé Dimitri Vernet. Emmanuel Ducrot nous parlera glyphosate. Il devait être interdit. Vous savez, il a été réautorisé pour 10 ans en fin d'année dernière par l'Union européenne. Ça rend les écolos verts de rage. Et ils affirment qu'on pourrait à la place tout désherber à la main. On recherche des volontaires. Vous peut-être, Olivier Delagarde, non? Bonjour.
Bonjour.
La revue de presse d'Europe 1 avec vous dans 5 minutes. Vous, justement, allez désherber la presse à la une ce matin.
Eh bien, on parlera des dessous de la descente d'Emmanuel Macron à Marseille, de Karim Benzema qui est peut-être de retour, et puis de la nouvelle folie à la SNCF.
Allez, à tout de suite, Olivier. Mais d'abord, à 8h35, vous avez rendez-vous avec Gaspard Proust. Bonjour, Gaspard.
Bonjour, Dimitri. Hola, quitte à la tous. C'est tout ce que je sais dire en espingouin.
Bonjour, Gaspard. Alors, vous avez vu que Malheureusement, Adrien Quatennens n'a pas pu rester pour vous écouter.
C'est normal, je comprends, il avait une répète.
Et une répète de quoi ?
Vous n'êtes pas au courant ?
Non.
Vous savez, moi, j'essaie de bosser un minimum sur les invités avant leur arrivée. Et franchement, ce matin, je me réjouissais enfin d'avoir face à moi, non pas un homme politique, mais un artiste.
Mais qu'est-ce que vous racontez,
J'ai lu sa fiche Wikipédia. Oui. Avant d'être un homme politique, Adrien Quatennens, c'est d'abord un batteur dans le groupe de rock Les Insoussols. Groupe de rock qu'il a fondé avec d'autres insoumis.
Les Insoussols, c'est vrai ça ?
Non mais je vous jure. Ah si, d'ailleurs on reconnaît le jeu de mots entre sous-sol et insoumis, hein, manière subtile de dénoncer le mal logement en souplex. Mais c'est pas tout.
Ah bon ?
Oui, non, mais les auditeurs vont apprendre des trucs ce matin. Figurez-vous qu'à l'âge de 12 ans, Adrien Quatennens a écrit une biographie sur Bob Marley.
Non, c'est pas vrai, vous faites marcher.
Je vous jure, c'est dingue, hein. Être fan de Bob Marley à l'âge où tu tousses quand tu essayes de vapoter. Je vais vous dire, ça c'est un truc qui ment pas. Écouter du Bob Marley de manière précoce, ça en dit long sur la personnalité d'un homme.
Et ça dit quoi alors ?
Bah, ils ont fait l'expérience. Si tu promènes un bébé dans une poussette en lui faisant écouter I Shot the Sheriff et qu'à la vue d'un policier, le bébé lui jette spontanément sa tétine à la figure, tu sais qu'il finira militant LFI. Et s'il recommence devant un distributeur bancaire, il sera Black Bloc. Moi, je vais vous dire la vérité, c'est que ça me l'a humanisé, l'invité invisible de ce matin.
Mais pourquoi ?
Mais moi, j'imagine Adrien, 12 ans avec ses potes, à écouter du Bob Marley tout en se refilant un bâton de réglisse. Elle est forte, hein. Ah ouais, c'est de la pure de Madagascar.
Il reste plus qu'à lui imaginer une coupe rasta avec des dreadlocks, alors.
Alors ça, j'irai pas jusque-là. Hier, je me suis un peu moqué de sa coupe de cheveux en brosse. Bah, là, c'est plus propre, la coupe en brosse, quand même.
Vous trouvez ?
On va pas se mentir, les mecs qui ont des dreadlocks, t'as quand même toujours l'impression qu'ils sont tombés dans une fosse septique il y a un mois et qu'ils ont eu la flemme de se laver les cheveux après, quoi. Du coup, le machin a coagulé, ça leur fait sur la tête une espèce de, comment dire, de mélange entre un paillasson et un arbre à chat capillaire. Enfin bon. Mais bon, c'est logique qu'Adrien n'ait jamais eu une coupe rasta parce que bon, il vient du Nord et dans le Nord, il y a que les gens très riches qui peuvent se permettre ça.
Il y a que les gens très riches qui peuvent s'offrir une coupe rasta dans le Nord.
Le Nord, c'est une région dure, aride, c'est un endroit où on gâche pas. Mmh. Et c'est vrai que quand tu vois la quantité de cheveux disponibles sur une coupe rasta, c'est quand même dommage de pas utiliser toute cette matière pour en faire des cordes ou, tu sais, ces éponges super pratiques quand t'as cramé du lait au fond d'une casserole en inox, tu vois, c'est pratique, c'est efficace, c'est bio. En tout cas, je regrette que tu sois pas là pour lui dire tout ça de visu parce que moi, je suis sûr qu'il aurait été touché par ma bienveillance.
Oui, sans
pas
doute,
d'attaque sur le physique, non. Tout sur le fond et les idées.
Oui, en effet. Sinon, l'actualité médiate du jour, Gaspard, c'est quoi selon vous ?
Moi, je suis désolé d'y revenir, mais qu'est-ce que j'y fasse ? Le président a déambulé à Marseille et il a encore parlé.
Oui, en effet, il était pour l'opération Place Nette.
Après, docteur Folamour, monsieur propre. Il endosse vraiment tous les costumes. Je pense qu'après son quinquennat, Darmanin, Attal et Dupond-Moretti vont tous finir majordome, tellement ils suivent une formation en accéléré. Quant à lui, il arrête pas de parler. C'est une machine à déblatérer. Les gens vont finir par croire que Jupiter était pas un dieu de l'Olympe, mais le saint patron des concierges d'immeubles.
Qu'avez-vous retenu de cette déambulation dans le quartier de la Castellane ?
Que du bonheur. Il s'est promené très content de lui, en toute simplicité, avec 35 gardes du corps, 250 policiers, 600 CRS, 2 hélicos, un sous-marin nucléaire. Il a expliqué que depuis qu'il était là, tout allait mieux.
Ah oui, vraiment ?
Ouais, le mec, il vient d'inventer un nouveau poste, inspecteur des travaux finis qui n'ont pas encore commencé. C'est le mec qui se pointe sur le terrain vague et qui te dit « C'est formidable, cette pyramide du Louvre. » Ah, ça a vraiment dû être compliqué de poser le verre. Hein. Ça va être fragile, hein. En tout cas, c'est fantastique. Beau travail, les gars. Et en tout cas, tout ça, c'est grâce à Bibi. Je pense qu'il souffre de l'illusion de la cam.
La cam, vous voulez dire la drogue ?
Non, de la caméra. Et que comme il y a des caméras et comme tout le monde venait lui parler, il s'est dit, mais en fait, ici, il n'y a pas de problème. Mais la Castellane, c'est super sympa. On m'a vendu une cité difficile. Moi, j'ai l'impression d'être à la Villa Montmorency. Enfin, la Wilaya Montmorency.
Oh, je suis étonné. Pas de réaction de votre part sur l'élection de Vladimir Poutine en Russie. Vous avez vu qu'il a été réélu, près de plus de 87%.
C'est pas vrai. 87%.
Oui, 87%, ouais.
Ça, pour que les Russes votent pour Poutine en masse comme ça, c'est que face à lui, il a vraiment dû avoir un candidat qui devait incarner les heures les plus sombres de notre histoire. Hein.
Mais Gaspard, il y a quand même de très fortes chances pour que cette élection soit un poil truquée.
Ça veut dire qu'en fait, il aurait fait plus ? Those Russians.
Tout ça pour écouter un peu de musique.
Ouais, oui, c'est la journée du bonheur.
C'est
bonheur,
quoi.
Ah oui, c'est vrai.
Merci.
Ah oui, c'est vrai.
Merci, Gaspard Proust.
Ouais, c'est quoi ? Ah oui, c'est vrai.
Allez, dans un instant, la revue de presse d'Europe 1, signée Olivier Delagarde, ce jour. Merci, Gaspard. La revue de presse d'Europe 1, je vous trouve, Olivier Delagarde, une petite ressemblance vocale avec Pierre Bellemare.
Eh bien, écoutez, ça me va droit au cœur.
Oui, c'est vrai, il y a quelque chose.
Parce que j'adore Pierre Bellemare, voilà.
À la une des journaux ce matin, Olivier, une opération XXL.
Place Nette XXL, c'est le nom de ce coup de filet anti-drogue à Marseille, même si hier, c'était plutôt opération XXL de communication. Parce que la ficelle est évidemment un peu grosse. Tous vos journaux racontent donc le bain de foule d'Emmanuel Macron à la cité de la Castellane, ses annonces d'arrestation, les autographes, les selfies. Mais pour avoir les dessous de la visite, c'est la Provence qu'il faut lire aujourd'hui. En fait, cette opération a été montée en réponse au pavé dans la mare jeté par des magistrats marseillais le 7 mars devant des sénateurs, raconte Laurent d'Ancona. « Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants », avait solennellement averti la vice-présidente du pôle criminalité. Cette audition a fait l'effet d'un tremblement de terre au sommet de l'État et la visite en mode bulldozer du président a été conçue comme une réplique à la hauteur de la secousse. Très contrarié par cette libération de la parole, Éric Dupond-Moretti s'est d'ailleurs rendu seul au tribunal à la rencontre des juges, raconte encore le journal. Un rendez-vous hors presse et pour cause. Ça a été une boucherie, rapporte un participant. La réunion n'a tourné qu'autour des propos tenus devant la commission et a donné lieu à un 20 minutes de lynchage public. Et ce participant qui tient, on le comprend, à rester anonyme, de s'inquiéter que la justice marseillaise dépende de la colère de son ministre. Quant aux arrestations, les policiers marseillais joints par la Provence remettent un peu les choses en perspective. C'est de là... police communication confie un haut gradé, mais ça a l'avantage de secouer le cocotier. Une chose est sûre, ce ne sont pas des gros poissons qu'on a arrêtés. On est sur des queues de commission rogatoire, pas sur du chaud bouillant. De toute façon, quand tu annonces que tu vas rester 3 semaines, tu sais que tous les gros mecs vont se barrer. C'est la limite de l'affichage. Un dernier détail raconté par la Provence. Hier soir, après le départ d'Emmanuel Macron, sur les boucles Telegram des trafiquants, on annonçait que le COFI avait rouvert à Castellane.
Mais quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier ?
D'abord Éric Ciotti qui, dans les échos, menace le gouvernement d'une censure. Alors que Bruno Le Maire hésite à présenter un budget rectificatif, le président des LR dénonce la gestion calamiteuse des finances publiques et du gouvernement qui doit donc être censuré, dit-il. Alors lui ne censure pas, il offre même ses services à l'équipe de France de foot olympique. Karim Benzema aimerait bien en être. On sait que Thierry Henry aura le droit de retenir 3 joueurs de plus de 23 ans pour le tournoi olympique. Eh bien, l'enfant terrible du foot français le déclare à l'équipe. Les JO, pourquoi pas ? Bien sûr que ça peut être top.
Il doit s'ennuyer en Arabie Saoudite, le pauvre Karim Benzema. On passe à la parabole du bagage SNCF. Mais de quoi s'agit-il ?
C'est top là aussi. De la chronique que signe Gaspard Koenig ce matin dans Les Échos. Alors que la simplification administrative est sur les rails, nous promettons, voilà un exemple de ce désir masochiste de complexité, écrit-il. Désormais, dans le train, nous aurons le droit de voyager avec, écoutez bien, seulement 2 bagages, mesurant 70 par 90 par 50 et 40 fois 30 par 15. Et n'oubliez pas votre double décimètre. Mais il y aura aussi la possibilité de prendre un bagage spécial. 3e bagage, non, car la liste est restrictive. Vous aurez droit à des skis, mais dans une housse. Et là, bingo, pas de restriction de taille. Ou un vélo, mais sans les skis. Et là, la possibilité de voir un sac à dos est conditionnée au fait qu'il soit plié ou non. Le vélo, pas les skis.
Oh là là.
La parabole du bagage SNCF est fascinante, écrit Koenig. Elle met parfaitement en lumière la logique qui préside à ce type de folie normative. Bref, ceux qui aiment Kafka prendront le train. Mais on va terminer par un autre film. Tenez, écoutez cet extrait.
On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Les valseuses.
Et les valseuses, vous avez reconnu
ça. Ah bah oui, première seconde.
Et pourquoi je vous fais écouter ça ? Eh bien, parce que le film sortait il y a 50 ans,
aïe.
Jour pour jour. Les valseuses, Pascal Praud, qui vient d'arriver. Et c'est merveilleux.
On n'est pas bien, là ?
C'est merveilleux le temps qui passe. Il y a un demi-siècle, le film de Blier avait été encensé par la critique de gauche qui y voyait une ode à l'insouciance, un appel à la liberté des mœurs et un coup de pied donné à l'ordre bourgeois. D'ailleurs, le Figaro à l'époque éructait. Eh bien, 50 ans plus tard, le même Figaro est le seul à célébrer l'anniversaire de cette orange mécanique version rigolarde, comme l'appelle Éric Nohoff. Patrick Devers est mort, Gérard Depardieu se cache, Blier ne tourne plus. Quant à la presse de gauche, tout occupée à traquer le nom politiquement correct, elle feint d'avoir oublié ce film qu'elle a tant aimé. Et oui, certaines bougies se soufflent en cachette.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde.
C'était la revue de presse avec Conto. Un compte pro et des outils adaptés aux PME pour la gestion des dépenses, la facturation et la comptabilité. Conto, c'est le compte pro qu'il vous faut. C'était l'anniversaire de Bertrand Blier la semaine dernière. Il a eu 85
mais
ans.
Mais dites donc, voilà. Tenez l'agenda. Hein, Danissa a dit, ah, les valseuses, 50 ans, Pascal Praud, ça ne nous rajeunit pas.
On n'est pas bien, là.
Oui, oui.
À la fraîche.
On a écouté l'extrait à l'instant.
Formidable.
Dites-nous, une invitée tout à l'heure à 11h.
Marion Maréchal.
Pascal Praud et
vous. Qui sera avec nous, Marion Maréchal, on pourra l'interroger. C'est surtout les auditeurs, pour tout vous dire. Parce que, évidemment, avant les élections européennes, ce qui va être intéressant dans la séquence que nous avons entre 11h et 13h, c'est de recevoir les leaders politiques et que les auditeurs soient en prise
en
directe.
Oui.
Exactement. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que parfois, ils posent des questions que les journalistes ne posent pas.
Absolument.
Donc, ça va être bien d'être avec Marion Maréchal. On pourra également évoquer Macron à Marseille, le président Macron hier à Marseille. C'est la 13e fois, je crois, qu'il allait à Marseille. Mmh. Et effectivement, l'écueil, c'est que ce ne soit qu'une fois de plus, une visite de plus. Parce que Aude, c'est très bien d'ailleurs de faire place nette, mais ce qu'on aimerait, c'est pourquoi pas une juridiction spéciale pour les affaires de drogue, pourquoi pas un code pénal qui change pour tripler ou quadrupler les peines, pourquoi pas du sursis supprimé après la première infraction, etc. Et ces grandes mesures des places de prison, elles ne sont pas annoncées. Mmh. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc t'as le sentiment que la police doit rester 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on vire la Castellane, on fait le ménage de la Castellane, les dealers vont ailleurs et ça recommence et ça continue encore et encore, comme dirait Cabrel.
Auditeurs marseillais et de partout, parce que la situation marseillaise, en fait, elle est partout en France aujourd'hui.
Oui,
vous
elle est pas à ce point-là quand même.
Oui, vous avez raison, c'est le paroxysme.
Mais c'est vrai qu'elle s'est généralisée dans des villes moyennes. Rennes, Nantes sont des villes aujourd'hui qui sont gangrénées par... et la violence et la drogue.
On en parle à 11h sur Europe 1. Le numéro de téléphone, Anissa Dadi.
01 80 20 39 21, numéro non surtaxé.
Bon, et Pascal, que vous retrouvez tout à l'heure dans 10 minutes sur Europe 1 pour l'heure des pros. A tout de suite, Pascal. Emmanuel Ducrot, bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vous réagissez ce matin à une déclaration de la tête de liste écologiste aux élections européennes, Marie Toussaint, lors d'un entretien à la chaîne parlementaire, c'était lundi.
Et oui, on l'interroge sur de nombreux sujets, notamment la crise agricole, ou la réautorisation du glyphosate. Et voici ce que dit Marie Toussaint.
Il y a des tas de produits sur lesquels il existe des alternatives. Mais vous voyez sur le glyphosate, si on rémunérait, comme nous le proposons, à l'emploi plutôt qu'à l'hectare, eh bien on serait en capacité, en tout cas on donnerait aux paysans les moyens de pouvoir lutter contre les herbes invasives contre lesquelles le glyphosate est utilisé.
Je traduis. Ce que propose Marie Toussaint pour remplacer le glyphosate, qui est un désherbant, c'est ce que mes grands-parents appelaient le moteur à soupe. Ils étaient agriculteurs, ils savaient de quoi ils parlaient, c'est-à-dire le désherbage à la binette, en subventionnant donc la main-d'œuvre plus que les surfaces.
Mais c'est pas une bonne idée, ça ?
Ben, ça dépend de quelle agriculture on veut. Si on rêve de celle qui était en France avant la Première Guerre mondiale, où elle reposait sur la force de travail, c'est une excellente idée. À ceci près que les paysans en 1914 étaient 30 millions, 40% de la population, sans compter les enfants dont le travail était la norme. Eh ben oui, c'était eux qui désherbaient les champs. Aujourd'hui, les agriculteurs sont 1,5% des actifs. En 1914, la population agricole finissait sa vie brisée à force d'être courbée pour désherber. Cette colonne vertébrale voûtée à l'extrême, ça s'appelle la plicature champêtre.
Ah,
cette maladie professionnelle a disparu avec le progrès agricole. Personne n'a envie de la voir revenir.
La plicature champêtre.
Pas, j'imagine. Oui. Les héros de l'humanisme et du droit à la paresse.
Bon, techniquement, c'est possible de se passer du glyphosate pour désherber ?
Ah ben, quand c'est possible, figurez-vous qu'on se passe déjà du glyphosate dans le maraîchage, parce que les surfaces sont petites, partout où on a pu mécaniser aussi. Mais il y a encore beaucoup de cas où on ne sait pas faire les céréales, par exemple. 9 millions d'hectares en France. Pour désherber à la main, à hauteur de 40 heures par hectare, il faudrait des millions de Français au champ avec une petite bêche et beaucoup de courage. On peut déjà chercher les volontaires, hein. Conséquence prévisible, de toute façon, une flambée délirante des prix de la nourriture.
Vous pensez que Marie Toussaint a raté un épisode? Ouais,
clairement, le futur de l'agriculture est bien plus excitant que cette fadaise façon Martine à la ferme. Robotisation, biotechnologie de sélection variétale, intelligence artificielle pour améliorer l'agronomie, prendre soin des sols, de la biodiversité, limiter les émissions de carbone et s'adapter au changement climatique. Il va falloir de la main-d'œuvre, bien sûr! Mais il va surtout falloir de l'intelligence, du talent, de l'innovation. On a beaucoup mieux à proposer aux jeunes générations qu'un travail de désherbage manuel subventionné. C'est une image d'Épinal qui fait plaisir à quelques bobos qui confondent leur dimanche au potager avec le métier agricole de nourrir un pays. Et alors il y a une preuve que le mythe du désherbage manuel n'est pas la bonne solution, c'est que personne n'a envie de cette vie-là, répétitive, asservissante pour lui-même. Ou pour ses enfants.
Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel, 8h53.
7h, 9h.
Europe 1
et
matin.
Et voici votre zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous.
Et là, c'est la première d'une série d'une dizaine d'opérations de PlaceNet appelé XXL.
Emmanuel Macron en visite surprise à Marseille hier. Le président est venu lancer l'opération PlaceNet XXL, un vaste plan anti-drogue pour la ville.
L'objectif, c'est rendre la vie des trafiquants, des dealers, de toute la criminalité qui les accompagne, impossible.
Bon, Dimitri, Anissa, quand on se déplace pour parler drogue, on parle de quoi? On parle de...
Drogue.
Bah oui, je suis d'accord, sauf que là, c'était pas vraiment le cas. Hein.
Après l'emploi, il n'y a pas de travail, ils font des promesses, il n'y a rien. Je suis un agent de sécurité.
Mais agent de sécurité, vous êtes... Ah bah, on va retrouver les choses, parce que, monsieur le ministre, monsieur le préfet...
J'ai pas trouvé...
Elle veut faire sécurité privée, madame.
On prend des CV, on parle de l'Ukraine, on parle de Gaza... Bah oui, le président s'est surtout accordé un bain de foule, une image déconcertante pour le sénateur Étienne Blanc sur BFM TV.
C'est un sentiment très curieux. À Marseille, il y a eu 87 morts. Et nous avons les plus hautes autorités de l'État qui échangent leurs 06, qui font des selfies. J'ai l'impression d'une déconnexion avec la réalité.
Déconnexion ou simple opération de com' pour les européennes? Et oui, il faut bien faire campagne à la place de Valérie. Hein. Valérie Ayé. La tête de liste Renaissance, Valérie Ayé, était sur nos antennes d'Europe 1 et CNews hier, vous le savez. Et comme à son habitude, eh bien...
Les outils qu'on a à disposition. Fermer les opportunités d'égalité salariale.
Elle ne peut pas s'arrêter de bugger. Voilà pour la forme. Bon, passons au fond.
Depuis 2019, au Parlement européen, avec mes collègues de la majorité présidentielle, on transforme l'Europe.
Depuis 2019, Renaissance transforme l'Europe. J'ai un petit doute là. Vous pouvez nous donner un petit exemple?
On a fait le chargeur unique, par exemple, sur les téléphones.
Waouh!
Ah ouais.
Le chargeur unique, franchement, un immense merci, Valérie. Après, on ne va pas se mentir, il y a pire dans cette campagne européenne.
Ima Hassan, le Hamas mène-t-il une action légitime?
Alors, tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'attaque du 7 octobre ou est-ce qu'on parle du Hamas comme étant un groupe politique à une branche armée?
Oui, sur France Inter, hier, ils ont reçu Rima Hassan, la militante pro-Hamas, présente sur la liste insoumise. 10 minutes d'interview, ils ont parlé de Gaza, et encore de Gaza, hein, pas une seconde sur les vrais sujets européens.
Comme toute personne de société civile, j'ai des sujets d'expertise.
C'était vraiment très intéressant.
Bon allez, pour finir, je vous emmène à l'Assemblée nationale. Ah, l'hémicycle. L'hémicycle, c'est fantastique. C'est un sketch permanent. On a par exemple l'insoumise, Sophia Chikirou, pas vraiment à l'aise avec le mot ministre.
Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Madame la ministre. Madame la ministre. Madame la ministre.
Et bien tiens, en parlant de ministre, Fadila Khattabi nous a inventé une nouvelle expression.
Et je me permets de les rappeler parce que gâteau avalé, gâteau oublié.
Mais surtout, à l'Assemblée, vous pouvez voir tous les jours le spectacle de notre David Copperfield français, Bruno Le Maire.
Nous rétablissons fermement, calmement et sereinement les comptes publics.
Ah, Bruno l'illusionniste, il n'arrêtera donc jamais la scène.
Décidément. Merci beaucoup Dimitri Vernet. À demain, Zapping Politique, à tous les matins sur Europe 1. Dans un instant, l'info continue, l'heure des pros arrive. Bonne journée à vous, à demain Anissa.
À demain.